Alors bonjour à toutes et à tous. Donc bravo de ne pas avoir eu peur de venir sur un sujet aussi difficile. Donc c'est marqué dans Daniel, un pasouk incroyable. Raïti ani Daniel levadi et amaré, ve anashim asher ayu imi lorau et amaré, aval charada gdola nafla aleihem veivarechu. Il dit, Daniel, il a dit, moi j'ai vu la vision. Et les gens qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, mais une grande peur est tombée sur eux et ils se sont enfuis. Alors la Gemara demande dans Megillah, il dit Vechi me'achar shelochazu ma'ita ma'ibaitu. Mais puisqu'ils n'ont pas vu, pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? La Gemara dit Afalgav de inu lochazu mazalayu chazu. Bien que eux n'ont pas vu, leur mazal il a vu. C'est bizarre. Maintenant, il y a une personne, elle est là. Oui, et elle a peur. Elle a une peur. Elle ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Alors cette peur-là, elle dit la Gemara, le mazal, l'intériorité de la personne, elle la ressent, mais la personne elle-même ne la voit pas. C'est comme si on disait le conscient, il ne perçoit pas, mais l'inconscient, il perçoit. Comme un danger, ouais. Ou quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un malaise. Alors c'est cette logique-là, qu'il y a une distance entre l'être intérieur et l'être extérieur, et dans cet espace-là, elle rentre la peur. Ça, c'est le principe qu'on va essayer de comprendre comment cela fonctionne, pour que quelqu'un, en fin de compte, il arrive quelque part à créer une peur lui-même. Alors après, nous, on essaie de comprendre. Quelqu'un, il a peur de l'avenir, il a peur de l'inconnu, il a peur de ne pas assumer, il a peur de vieillir, il a peur de mourir, il a peur d'être ridicule, il a peur des autres, il a peur de soi-même, il a peur d'être seul. Il a peur d'avoir peur. Il y a combien de peurs? Il y a pratiquement autant de peurs que de bonheur. C'est des milliers et des milliers de facettes. Comment est-ce que quelqu'un, il aborde la peur? Mais ce qui est marqué ici, et comme ça il explique le Rav Dessler, Pachad veda'aga, la peur et le souci, be'inyane aolamazé, dans tout ce qui concerne le monde matériel, c'est-à-dire le monde réel, ta'out em, c'est une erreur. Da'aga mafsida et ta'ove. La peur et la crainte, elles détruisent le présent. Mibli le'avi shum to'elet be'atid, sans amener aucune amélioration au futur. La peur que quelqu'un est là, ça n'arrange rien, ça ne fait rien, ça ne sert à rien. Dans tout ce qui concerne les liens avec la matérialité. Ou le'olam lo yetse adam mi da'aga kazo. Et un homme, jamais il sortira de cette peur-là. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle est fondée sur rien et qu'elle se nourrit de rien, donc elle peut durer éternellement. Qui c'est qui va l'empêcher de s'arrêter? Il dit Vegam en mima le fached qui colle de avid rachamana le tavavid. Il dit Rav Dessler. Et en plus, il n'y a pas de quoi avoir peur parce que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Alors comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, quand il a peur, mafsid a ové, il perd, il détruit le présent? On a expliqué déjà quelques centaines de fois qu'un homme, toute sa vie, il est confronté à une réalité. Cette réalité, on l'appelle le présent. Maintenant, il y a deux éléments dans le présent. Il y a le présent et la personne elle-même. Maintenant, de la manière que le présent est présent, la personne aussi, elle doit être présente dans son présent. Maintenant, des fois, le présent est présent et moi, je suis présent. Des fois, je suis présent, mais mon présent n'est pas présent. Et des fois, je ne suis pas présent dans mon présent. Maintenant, c'est quoi la tentation dans un présent qui me fait peur, c'est d'être absent. Alors la peur, c'est la fuite du présent. Donc quelqu'un, il a une réalité devant lui, ouais. Il fuit cette réalité, ça s'appelle la peur. Maintenant que ce soit un examen, ou le regard des autres, ou l'inconnu, ça ne change rien. Le principe, c'est toujours le même. Que l'homme, à l'intérieur de lui-même, il a créé un espace, et dans cet espace, il peut s'enfuir à l'intérieur. Ça veut dire que je ne peux pas m'enfuir si je n'ai pas un espace pour m'enfuir. Maintenant, la question, elle est, qui c'est qui a créé cet espace? Comme dans la vie, en vérité. Nous, on croit qu'il y a deux choix. Mais il n'y a pas de deux choix. Il y a un seul choix. Parce que le deuxième, ce n'est pas un choix. C'est une fuite. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la vie, elle se propose à nous sous forme de séquences. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des séquences, il y a des bonnes séquences, des mauvaises séquences, qu'on appelle des conséquences. D'accord? Qui en fin de compte des séquences qui ont mal été gérées. Maintenant, quelqu'un il doit avoir la émouna, la croyance, que les séquences qu'on lui propose ne sont pas par hasard. Celui qui n'a pas la croyance, il faut qu'il trouve des éléments de contrepoids pour pouvoir assumer la réalité. Alors il y en a qui ont confiance en eux, il y en a qui ont un gris-gris dans la poche, il y en a qui ont accroché un rabbin dans un mur, ça s'appelle une église, d'accord. Chacun, il va trouver une logique pour avoir confiance.
Ces choses-là peuvent donner un peu de...
Oui, oui, deux minutes, parce que là, franchement, c'est la première fois que j'assiste à ce cours, parce que je l'ai écrit cet après-midi. Donc si vous me coupez au milieu, je ne sais pas ce que ça va devenir. Mais moi, je ne sais pas où on va. Donc c'est quoi l'idée? Ça, c'est très très important, parce que trois mots de Rav Dessler, c'est à peu près 54 conférences de faculté. Donc il a dit que la peur mafsida a ové, elle détruit le présent. Vetaout i, et c'est une erreur. Alors c'est quoi une erreur? Une erreur, c'est une erreur du jugement, une erreur de regard dans la réalité. Vous voyez? Pourquoi je vais te tromper? Pourquoi je vais mal juger? Pourquoi je vais mal voir? Alors j'ai dit, cette peur-là, c'est l'endroit où la personne, elle s'enfuit. Maintenant, pour que quelqu'un puisse s'enfuir, il a besoin d'avoir où aller. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est est-ce que cet espace-là qu'on a créé pour pouvoir s'enfuir, qui c'est qui l'a créé? Ça s'appelle le manque de confiance en soi, le manque de maturité, l'illusion de croire qu'il y a une autre solution, comme la tentation du mensonge, par exemple. Quelqu'un, il pense qu'en mentant, on le croira plus. Mais il voit bien que ça ne marche pas, puisque plus il ment, moins on le croit. Mais quand même, il est tenté de croire. Il croit qu'en volant, ça rapporte plus. Mais il voit bien qu'il se fait attraper, donc ça ne marche pas. Il croit que pendant des années, il pourra cacher à l'autre qu'il le trompe ou qu'il la trompe. Mais il voit bien que ça ne marche pas, puisque Hachem, il prend un malin plaisir à prévenir le deuxième quand l'autre, il délire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ta vie, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, toute ta vie, tu fuis des choses. Or, ces choses-là que tu fuis, c'est elles qui vont te rattraper les premières. Plus tu fuis, plus ça te rattrape. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que la vraie question, c'est pas ce que tu fuis. La vraie question, c'est pourquoi tu fuis. Mais où tu vas? Où tu cours? Tu veux échapper à quoi? Parce que c'est ta vie à toi. Tu te bats avec qui maintenant? Ouais? Tu veux pas? C'est ta vie. Donc quand tu fuis ta vie, où tu vas atterrir? Dans une espèce de truc virtuel. Maintenant, puisque ce truc virtuel, a priori, n'existe pas, il n'y a que toi qui peux le créer. Donc quand tu le crées, il existe. Par exemple, la culpabilité. Par exemple, chez un enfant. Un enfant, il a fait une bêtise, d'accord? Maintenant, son père n'est pas au courant, sa mère n'est pas au courant. Mais lui, il est au courant. Donc, puisqu'il est au courant, vous voyez, à chaque fois qu'il passe devant son père, il est tendu. Son père, il s'approche de lui, il fait comme ça. Oh, quelle différence entre quelqu'un qui a fait une bêtise parce qu'il a 8 ans, et donc il a peur que son père le frappe, ou quelqu'un qui a fait une grosse bêtise parce qu'il a 38 ans, et il a peur que sa femme soit au courant, ou il a peur qu'il embrouille son associé depuis 20 ans, et qui est son beau-frère, et il a peur qu'il regarde les comptes. À chaque fois, il lui dit, c'est pas toi qui t'occupes de la compta, c'est moi qui m'occupe de la compta. Mais qu'est-ce que ça peut te faire si je regarde la compta? Alors, il commence à rentrer dans des trucs, et t'as pas confiance en moi, et de toute façon, tu m'as jamais aimé, depuis que j'ai épousé ta sœur, tu as la haine contre moi. En vérité, lui, il a volé, il vole depuis des années. Et cette âme qu'il a de voler, au lieu de l'assumer en tant que culpabilité, il la transfère en tant qu'agression. Agression. Mais c'est lui qui a fait tout seul. L'autre, il comprend même pas de quoi il parle. Il dit, mais pourquoi t'es nerveux comme ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Simplement, je voulais t'aider à mettre de l'ordre dans les papiers. Ah, pourquoi tu t'occupes des papiers? Tu n'as pas confiance en moi. Tu es un voleur. Pourquoi tu me traites de voleur? Parce que c'est toi qui vole. Donc la personne, quand elle n'arrive pas à assumer sa culpabilité, elle la transfère. Et c'est ta peur. Tu t'es mis tout seul dans un état incroyable. C'est ta peur. Et ça, c'est un domaine qui est énorme. Parce que nous, on voit bien comment les gens, dans leur peur, ils partent. Ouais, ils partent loin. Sur la base de quoi, en fin de compte, il n'y a rien? La peur, elle n'existe, encore une fois, que par rapport au crédit que je lui donne. C'est comme les gens, par exemple. Je vous donne un raisonnement. Je suis ce que je suis devenu. D'accord? Je suis ce que je suis devenu. Ça veut dire que pour être ce que je suis, j'ai suivi un certain cheminement qui s'appelle le devenir, qui m'a amené à être ce que je suis. D'accord? Maintenant, si je suis malin, il vaut mieux pas que je fasse des choses qu'un jour je pourrais regretter. Parce que comme je vais les regretter et qu'elles vont faire ce que je suis devenu, donc je risque un jour de regretter ce que je suis devenu puisque j'ai fait des choses qui m'ont fait devenir quelque chose que je regrette. Et ce que je suis devenu, c'est ce que je suis. Donc si je ne veux pas regretter ce que je suis, il ne faut pas que je fasse des choses que je sais que je pourrais un jour les regretter. Ça va? Non, c'est très simple. Ça veut dire qu'un homme, il est obligé de vivre au présent et au futur en même temps. au présent et au futur. Pour ça que je vous avais dit à l'époque qu'au niveau de la Neshama, parce qu'au niveau du corps physique, il y a ce qu'on appelle le présent, le passé, le futur. Ouais. Donc, mais en fait, le passé, c'est du présent qu'on oublie, et qui est passé, mais c'est du présent, mais qui est passé. Et le futur, c'est un présent que l'on ne connaît pas et qui est à venir. Mais en fait, le présent, le passé et le futur, c'est du présent. Mais c'est vieux, non? D'accord. Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais être présent dans le futur? Parce que je suis présent dans mon présent. Je vous avais raconté cette histoire. J'étais en classe à l'époque, en classe de seconde. Donc, je devais avoir à peu près 16 ans. Et il y a un prof qui s'est énervé contre moi parce que je ne travaillais pas beaucoup à l'école. En fait, je faisais de la philosophie 18 heures par jour. Et pour l'école, je faisais le minimum. Et juste quand il y avait les contrôles sur table, je travaillais bien. Donc comme j'avais 19 de moyenne sur les contrôles et 3 de moyenne sur les devoirs à la maison, il ne comprenait pas qui j'étais. Parce que normalement, c'est à la maison que tu as des bonnes notes parce que tu triches. Et en contrôle, ah, on t'a attrapé. Tu as 3. Mais là, j'avais 3 à la maison et 19 devant lui. Il a eu peur. Ouais. Alors il m'a dit, tu sais, l'année prochaine, ton passage est compromis. Je lui dis, compromis? Qui c'est qui a promis ça? Il m'a dit, oui, parce que tu sais, ton travail irrégulier compromet ton passage. Je lui dis, j'ai pas compris. Il m'a dit, ben, tu devras avoir peur pour l'année prochaine. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, l'année prochaine, je vais être en classe de première. Je le sais. Je le sais parce que j'ai un niveau de terminale. Vous êtes en train de m'angoisser pour la première, alors que je suis en seconde. Et je sais que j'ai un niveau de terminale. C'est pas de l'orgueil, je sais ce que j'ai travaillé. D'accord? Donc maintenant, moi, l'année prochaine, quand je serai en première, l'année de seconde, je vais la trouver bidon. Je vais dire, oh, qu'est-ce que je me suis angoissé pour rien en seconde. La seconde, c'est bidon. Maintenant que je suis en première. Alors je lui ai dit, pourquoi voulez-vous que j'ai peur, que je m'angoisse en seconde, d'une chose que l'année prochaine, je trouverai bidon? Vous avez compris?
Nous savons que le prof a compris.
Je sais pas, il était prof de philo, donc a priori, il devait avoir un cerveau. Donc je répète. Je lui ai dit, pourquoi je vais m'angoisser l'année prochaine d'une chose que je sais que l'année prochaine, je vais la trouver bidon? Pourquoi je vais m'angoisser cette année d'un truc que je vais trouver bidon l'année prochaine? Il m'a dit, mais on n'est pas l'année prochaine. Je lui ai dit, qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine? Il m'a dit, un an. Je lui ai dit, non, ce qui nous sépare de l'année prochaine, c'est la maturité. Donc si moi j'ai la maturité de l'année prochaine cette année, j'ai pas à m'angoisser de cette année. Maintenant, c'est quoi le danger? C'est que les gens, ils veulent faire évoluer la maturité à la vitesse du temps qui passe. C'est comme si tu dis, le fruit n'a pas atteint sa maturité, car il faut 6 mois sur l'arbre. C'est un fruit. La tarte, elle n'est pas cuite, parce qu'elle doit rester 40 minutes. Donc si toi, tu te sens entre la poire et la tarte, ou la tarte aux poires, madriga supérieure, oui. Donc tu dois attendre que la maturité se passe. Mais si tu as un cerveau, peut-être que tu peux dire, mais puisque dans cette année je suis présent, et bien l'année prochaine je vais être présent, et bien le présent de l'année prochaine je vais le vivre cette année. Ça va? On me suivait ou non? Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Ouais. C'est comme, maintenant moi j'ai dit une année, ça vous semble long. Mais dans 5 minutes, il y a une chose à faire. Donc je dis, est-ce que je vais le faire dans 5 minutes? Est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que j'aurai le pouvoir de le faire? Est-ce que j'aurai la confiance en moi pour le faire? Mais t'as pas compris. De toute façon, tu vas le faire. Alors à quoi ça te sert de te poser la question si tu peux le faire? Puisque de toute façon, tu vas le faire. Donc t'as qu'à te mettre de l'état de que tu l'as fait avant de le faire. Et il n'y a pas eu d'espace entre je peux le faire et je dois le faire. Et je l'ai fait. Donc il n'y a pas de peur. C'est ça la peur. La peur, c'est l'espace que tu crées entre ce que tu peux faire et ce que tu dois faire. Et c'est toi qui l'as créé cet espace, qui ne sert à rien. C'est un halom, oui. Et comment je vais faire? Et je suis débordé, et ça me prend la tête, et j'ai peur, et qui a dit? Mais c'est quoi? Parce que c'est l'avenir, et l'avenir tu ne le vois pas. Mais je te réponds que l'avenir c'est un présent. Maintenant, qu'est-ce qui fait le présent? Le présent, c'est que tu sois présent. Eh bien, sois présent! Donc dès que toi tu joues l'absent, ça s'appelle la victimisation, ça s'appelle l'angoisse, ça s'appelle la peur, ça s'appelle de se mettre dans le rôle de l'enfant. Mais t'as pas compris, tu ne peux te mettre dans le rôle de l'enfant que parce que tu sais qu'il y en a un autre qui va jouer l'adulte.
Et la
2 minutes. C'est aussi une forme de peur. Donc encore une fois, la peur c'est le phénomène, d'accord? Ce qui est important, c'est pas la peur elle-même. Ce qui est important, c'est le terrain qui accueille la peur. Comment elle a pu apparaître cette peur? Comment elle est venue? C'est comme si tu vois deux pierres de marbre. Ouais, il y a deux pierres de marbre par terre. Et au milieu, il y a un arbre. Tu dis, mais d'où il est sorti cet arbre? C'est qu'il y a de la place. Il est sorti. Les mauvaises herbes, vous savez, on met des produits entre les pierres parce qu'il y a de l'herbe qui pousse. Mais comment il est poussé cette herbe? Parce qu'il y a de la place. Comprenez ou non? Alors, quelle différence entre une mauvaise herbe qui pousse, entre une mauvaise habitude qui se développe, entre une angoisse qui se met en place, entre des stress, entre des nerfs? Quelle différence? C'est un espace. Il y a un espace. C'est pour ça que souvent je vous ai dit, le stress c'est quoi? C'est la distance qui s'établit entre toi et ton projet. C'est pour ça que toujours je donne l'exemple de la valise. Vous rappelez l'exemple de la valise, non? Personne ne révise. C'est honteux. Si vous prenez une valise de 30 kilos, d'accord? Elle pèse 30 kilos. Si vous la prenez comme ça sur vous, à bras le corps, vous ne la sentez pas. Pourquoi? Parce que le poids est réparti sur tout le corps. Donc les bras, les pectoraux, le dos, les fessiers, tout porte la valise. Mais si la valise, vous la portez à bout de bras, eh bien les mains tremblent. Pourquoi? Parce que c'est les doigts, c'est les articulations, c'est le poignet, un peu l'avant-bras, un peu les épaules. Et c'est dur à porter. Donc ta vie, si tu la portes à bras le corps, elle est légère. Si tu la portes à bout de bras, elle est lourde. Maintenant, ça veut dire quoi porter sa vie à bout de bras? Porter sa vie à bras, ça veut dire, c'est ma vie, oui, donc je dois le faire. Alors automatiquement, c'est lourd. Puisque je suis obligé. C'est mes enfants. Alors, qu'est-ce que je fasse? Genre, comme je ne peux pas y échapper. Mais papa, tu les as accouchés. A priori, vous les avez conçus avec amour. Tu n'as pas été violé. Donc, comment ça se fait que c'est tellement lourd? C'est ton travail. Ils te nourrissent tous les jours. Oui, mais tu sais, les clients, le stress, les impôts. C'est toi qui l'as choisi. Non, tu n'es pas rentré avec un pistolet sur la tête. Va au travail. Et grâce à Dieu, tu as gagné des millions d'euros. Peut-être des milliers d'euros. Peut-être des dizaines d'euros. Mais vu que tu n'es pas mort de faim, c'est que sûrement ça t'a rapporté assez pour survivre jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Soit tu es en train de cracher sur ta réalité et après tu t'étonnes qu'elle te ne nourrit plus. Une femme, elle vient chez moi avec une Megilla. Une Megilla d'Esther. Je lui dis, qu'est-ce que c'est madame? Elle m'a dit, ce sont les reproches que j'ai à faire à mon mari. Ah bon? Il est têtu, il est bête, il est méchant, il est idiot, il est lourd, il est Allah, il est gros, il sent sous les bras. Je dis, attendez madame, vous parlez de qui là? De Hitler? Elle m'a dit, non, de votre mari, le père de vos enfants? Elle me dit, oui. Je dis, pourquoi vous m'avez amené ça? Je dis, mais c'est du lachonara. Si. Elle m'a dit, non, c'est les torelettes. C'est les torelettes. C'est ce que c'est les torelettes. Quand on fait un lachonara, c'est interdit de parler de lachonara. Mais si c'est pour une bonne raison, pour faire avancer les choses, on appelle ça les torelettes. Donc quand moi quelqu'un me fait un lachonara, mais je sens que c'est vraiment les torelettes, je dis, vous aurez mieux fait de raconter ça aux torelettes. Ça aurait été plus simple. Parce qu'ici, de le dire ici devant moi, ça me dérange. Elle m'a dit, mais c'est pour faire avancer les choses. Je dis, écoutez madame, moi je connais une règle. Les gens qu'on respecte, on les admire. Les gens qu'on admire, on les aime. Les gens qu'on respecte plus, on les admire plus. Les gens qu'on n'admire pas, on les aime plus. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de préparer le jour où vous direz, j'ai plus de sentiments. Mais qui c'est qui l'a fabriqué ça? Dans tout c'est pareil. Ouais. On dit en arabe, le pire aïnara, c'est l'aïnara des parents. Mais c'est pas l'aïnara, genre ils vont... Non! Tu sais, mon fils, il est nul. Mon fils, il est bidon. Mon fils, ça ne marchera pas. Mon fils, tu vas à l'école. L'école, elle attaque ton fils. Toi, tu dois défendre ton fils. Tu dis, oui, mais il est bête. Mais d'accord, mais c'est toi les parents. Chacun, il doit jouer son rôle. Ça fait un équilibre. Mais si l'école a dit, il est bidon, toi, tu devrais renvoyer-le. Comment ça? Je ne comprends pas qui c'est qui travaille pour qui. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu pourris ta réalité, elle est pourrie. Tu dis, mais il faut être objectif. Mais ça veut dire quoi, objectif? C'est quoi, objectif? Regardez, dans les camps de la mort, l'autre, il a fait la vie est belle, il est sorti. C'est quoi objectif? Tu peux plus être plus subjectif que la vie est belle dans le compte de la mort. Tu peux pas faire plus subjectif que ça. Mais ça veut dire quoi objectif? Ça veut rien dire. Parce que si objectif, ça veut dire creuse un trou et meurt. Peut-être c'est subjectif. Donc c'est quoi l'idée? C'est que l'espace que tu as créé pour que ta peur elle s'installe, c'est ça le terrain. C'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que la peur elle-même, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est comme une tentation, par exemple, tu veux voler, ouais, tu es chez quelqu'un, tu ouvres le tiroir, tu vois 5 liasses de billets de 500, tu dis je vais en prendre une liasse, avec 5 liasses, c'est des liasses de 100 billets, 100 billets de 500, je vais le voler, c'est trop dur, je peux pas me retenir, c'est trop difficile, il faut que je le fasse, c'est interdit, c'est assourd, mais je m'en fous, je vais kiffer ma race, et à ce moment-là, le type rentre dans la pièce. Tu te calmes, tu refermes le tiroir, tu dis bonsoir, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Chag Sameach, Hanouka Sameach. J'ai dit, où est la Tava? Où est la folie qui t'a pris? C'est bizarre, non? Comment quelque chose qui est tellement fort que tu te sens emporté et disparaît? Oui, la secrétaire, elle te rend folle. En plus, aujourd'hui, elle est venue avec des arguments extraordinaires. Eh bien, si ta mère ou ta femme, elle rentre dans la salle, d'un seul coup, tu deviens Moshe Rabbeinu. Alors qu'il y a 2 minutes, tu es en train de lui faire des propositions qui sont vraiment dignes d'un chien. Alors, je comprends pas, t'es qui, toi? Tu vois ça? Un ami croit, c'est trop fort, je ne peux pas lutter, mais vous ne vous rendez pas compte dans l'épreuve dans laquelle je suis. J'entends des gens au téléphone, je dis, mais ça veut dire quoi, Baba? Ça veut dire que l'épreuve, elle est trop forte. Alors comment ça se fait que quand il n'y a plus d'espace pour la rendre possible, il n'y a plus d'épreuve? C'est normal, parce que le regard de l'autre, c'est la conscience. Le regard de ta femme, c'est le paradoxe. Le regard de ta mère, c'est honteux. Donc tu vois que quand tu te retrouves en face d'une référence, ta peur, elle disparaît. Donc ça veut dire que ta peur, elle n'existe que parce que tu as enlevé les références. Dans tous les domaines, que ce soit l'envie, ou que ce soit les pulsions, ou le côté animal, ou la peur, c'est la même chose. La peur ne peut exister que dans l'espace que tu lui donnes. C'est impossible autrement. C'est pour ça que toujours on a donné l'exemple du chametz. C'est extraordinaire le chametz. Vous prenez de la farine, c'est bon la farine. Vous prenez de l'eau, c'est très bon. Vous les mélangez, ça fait de la pâte. Vous attendez 18 minutes, ça devient chametz. Qui c'est qui a mis le chametz dans la pâte? Personne. Écoutez bien. Il était déjà dedans. Maintenant, la matza, c'est quelque chose de très bon. Et le chametz, c'est quelque chose de très grave. Oui? Donc, comment la pâte, elle est devenue chametz? Avec le temps qui passe et avec le fait que je n'ai pas travaillé la pâte. Donc, comment ton couple, il est devenu chametz? Parce que tu n'as pas travaillé ton couple et tu as laissé le temps passer. Comment ton business, il est devenu chametz? Parce que tu as laissé le temps passer, tu croyais genre ça marche tout seul, il y a une secrétaire, oh tu as oublié de prendre le téléphone. Tu as laissé le temps passer et tu n'as pas travaillé la pâte. Alors c'est devenu chametz. Maintenant je dis, où est-ce qu'il était le chametz avant qu'il apparaisse, il était dans la pâte. Vous savez, disent les médecins qu'on a tous des cellules cancérigènes, tous, mais elles sont en repos. Maintenant quelqu'un, il a un stress, il a un malaise, il a une peur, il en a marre de la vie, il veut crever, il veut se faire remarquer, il veut qu'on s'occupe de lui, ou alors c'est génétique. Maintenant, la cellule cancérigène, elle se déclenche. Mais elle est déjà dans la personne. Vous me suivez ou non? Elle est déjà dedans. Maintenant, c'est quoi le chametz? C'est une dégénérescence des enzymes de l'amidon qui sont à l'intérieur de la pâte. Donc, ça veut dire que la pâte, c'est quelque chose de bien. Le chametz, c'est quelque chose de mauvais. C'est bon? Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? Ça veut dire qu'en fait, compte, c'est quoi le mal? Le mal, c'est du bien qui a mal tourné. Donc, si vous, non. Le mal, c'est du bien qui a mal tourné. Parce que le mal, il est dans le bien. Maintenant, tant que tu maîtrises le bien, il ne devient pas mal. Mais si tu lâches les rênes, le bien, il devient mal. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais je ne rends pas ce couple, ils ont tout pour être heureux. Oui, mais ils ne s'occupent pas d'eux. Mais cet enfant-là, mais grâce à Dieu, mais quelle intelligence. Oui, mais il ne se maîtrise pas. La paresse, elle peut rendre quelqu'un d'intelligent débile. Pourtant, il a tout pour réussir, mais il est paresseux. Ouais. Celui-là, il est idiot comme un jbeb, mais il a une confiance en lui extraordinaire. Il va réussir. L'autre, il a un QI énorme, mais il n'a pas confiance en lui. Il ne va pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le chametz monter. À chaque fois que tu enlèves tes mains, les choses, elles se font d'elles-mêmes. C'est dangereux. Tu perds le contrôle. Maintenant, la perte de contrôle du temps, ouais, et la perte de contrôle de l'action. Tu lâches le volant, t'es un fou. Tu lâches le volant, tu lâches la boîte, tu lâches ton couple, mais qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Ah, mais je comprends pas, ils sont à l'école juive. Mais comme ils sont à l'école juive, ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'occuper de tes enfants. Tu n'as pas besoin de leur faire la culture, mais ils ont la télévision. Quoi, la télévision, elle va leur donner de la culture? Tu dis, mais grâce à Dieu, je leur ai acheté les bandes dessinées sur la Torah. Tu crois que la Torah, ils vont l'apprendre dans la bande dessinée? C'est impossible. À chaque fois, on a tous des enfants extraordinaires. On a tous des mariés extraordinaires, on a tous des femmes extraordinaires. Mais attention à toi. Oui. Attention à toi, parce que c'est dans le bien qui vient le mal. Dans le bien. Donc un bien que tu ne maîtrises pas, un bien que tu n'accompagnes pas, un bien que tu n'orientes pas, un bien que tu ne maîtrises pas, il devient le mal. Et ça, c'est un phénomène bizarre. C'est comme le lin et la laine. Je ne sais pas si vous avez compris ce principe. Le lin tout seul, c'est très bon. La laine toute seule, c'est très bon. Le mélange des deux, ça fait charatnez. Maintenant, charatnez, c'est quoi? Satan az, ils disent le rite base. Charatnez, ouais, c'est les mêmes lettres que Satan, un Satan, az, puissant. Tu dis, maintenant, on parle simplement d'un tissu, d'un mélange de fibres. Qu'est-ce qu'il y a de tellement puissant là-dedans? On dit pourquoi? Parce que le lin, vous savez que le lin, c'est une fibre extrêmement solide. Le fil de lin, on fait avec les boutonnières, on fait des choses très très dures, c'est très fort. Ouais, le lin, c'est très solide. Donc ça représente en vérité la midatadine, la rigueur. La laine, oui, ça représente quoi? La rahamim. On dit doux comme un agneau. Caïn, comme Corban, il a amené de la laine. Hevel, comme Corban, au contraire, Caïn, il a amené du lin. Hachem, en tant que sacrifice. Hevel, il a amené de la laine. Pourquoi? Ils disent les commentaires. Parce que Caïn, il pensait que le monde, il devait aller selon la rigueur. Hevel, il pensait que le monde devait aller selon la miséricorde. Maintenant, celui qui pensait que ça allait selon la miséricorde, il était faible. Donc, il a été tué par celui qui pensait que ça allait selon la rigueur, qui était fort. Mais celui qui pensait que ça allait selon la rigueur, lui, la rigueur, elle lui est retombée dessus. Donc, il fallait qu'il meure, parce qu'il l'a fait. Alpidine, il va mourir, lui. Donc, l'autre, il est mort de Rahamim. Et l'autre, il est mort de Din. Ce qu'il pensait. Donc, tu mélanges le Din et le Rahamim. Ça fait un paradoxe. Le paradoxe, c'est explosif. La différence, c'est la cause du conflit. Ça va? C'est les commentaires, ils expliquent. Le Midrash, tout le monde explique. Oui. Il a amené des fruits de la terre. Les commentaires, ils disent, le Midrash, il dit que c'était du lin. Non, mais c'est très profond. Faut pas regarder juste le pshat. Parce que pshat, c'est les mêmes lettres que tipesh. Il faut approfondir. Donc, c'est quoi l'idée? Ça n'a rien à voir avec vous. Mais je dis, il ne faut pas avoir une lecture trop superficielle. Laissez ça là-bas de l'autre côté, ils ont cette spécialité. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un réfléchit. Donc, le lin tout seul, c'est très bon. La laine toute seule, c'est très bon. Mais quand tu les mets ensemble, ça fait quelque chose de très mauvais. Donc, ça veut dire que la différence est la cause de tous les conflits. C'est pour ça qu'un homme et une femme, c'est la guerre. Les enfants et les parents, c'est la guerre. Les professeurs et les élèves, c'est la guerre. Les riches et les pauvres, c'est la guerre. Les beaux et les moches, c'est la guerre. Parce que la différence est source de conflit. C'est ça le lin et la laine. C'est Satan Az, d'accord? Et pourtant, si on fait un tzitzit en lin et en laine, c'est kasher. Vous prenez un talit en laine, vous prenez des tzitzit en lin, vous les accrochez ensemble, c'est charatnez. C'est permis. Pourquoi? 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'on dit assez d'ochelota assez. La mitzvah positive de faire le tzitzit, elle repousse l'interdit de charatnez. Assez d'ochelota assez. Les Kohanim, dans le temple, ils portaient charatnez. Ils avaient des habits en lin, des habits en laine. Je comprends pas. Alors on recommence. Le lin tout seul, c'est bien. La laine toute seule, c'est bien. Les deux en même temps, c'est très grave. Mais pour une mitzvah, il n'y a plus de danger. Un homme tout seul, c'est très bien. Une femme toute seule, c'est très bien. Tu les mets ensemble, c'est la guerre. Mais si ils s'aiment les Shem Shamaim, il n'y a plus de problème. Ça veut dire que le paradoxe, si tu l'utilises, il te fait grandir. Et le paradoxe, si tu le subis, il va te détruire. Pourquoi tu as épousé celle-là? Parce qu'elle est différente. Pourquoi tu la divorces? Parce qu'on est trop différents. Les gens, ils ne s'écoutent même pas parler. Mais je comprends pas la différence. Ça rapproche ou la différence, ça sépare. Tu es différent de ton rave. Il est plus intelligent que toi. C'est pour ça que tu es attiré vers lui. C'est normal, oui. Mais alors, pourquoi cet élève-là, tu as besoin de lui? Parce que sa différence, elle t'oblige à te mettre à son niveau. Donc, la pédagogie, ça va te faire grandir à toi. Donc, le rave, il va grandir de la différence entre l'élève et lui, et l'élève, il va grandir de la différence entre le rave et lui. Donc, la différence, c'est bon. Donc, c'est bon, non? Si tu la vis mal, ça s'appelle complexe, frustration, malaise, haine, rancune, meurtre. C'est que la différence. C'est que la différence. Maintenant, quelle différence, je te dis, entre toi et quelqu'un d'autre, ouais, et une différence entre toi et ton avenir? Eh bien, c'est la distance, c'est la même chose. Et dans la distance, elle se développe la peur. Et la peur, elle n'a pas de réalité, puisqu'elle disparaît le jour où tu la maîtrises. Comme le chametz. Ouais. Le chametz, il disparaît parce que tu ne le laisses pas apparaître. Mais si tu le laisses apparaître, Rabotaï, la pâte, quand elle est devenue chametz, est-ce qu'on peut la rendre à nouveau cachère? Il n'a pas la divine Hametz. On peut la rendre matza? Oui, non, oui, non. Non, vous êtes sûr? Alors, vous savez qu'il y a trois étapes. Pendant Pessah, une miette de Hametz dans 500 kg de haricots verts, c'est assour. Ça s'annule pas, même dans 1000. Ouais. Après Pessah, un Hametz qui était Hametz pendant Pessah, il est interdit pour toujours. Mais avant Pessah, le Hametz s'annule dans 60 fois plus. Mais chichi. Oui. Alors maintenant, je vous donne un hidouche. Je ne suis pas sûr qu'il est vrai. Je l'ai trouvé la semaine dernière en faisant la route entre l'aéroport et Netivot. Je me suis dit peut-être Netivot or, ça m'a donné un hidouche. Écoutez bien. C'est quoi avant Pessah? Tu vois par exemple toi et ta femme. Ta femme c'est de l'eau et l'homme c'est la farine puisque c'est l'homme qui détient le blé. Donc c'est normal, d'accord. Donc l'homme et la femme c'est quelque chose de différent. Comme la farine et l'eau. Super. Quand on est avant Pessah, c'est quoi? Maintenant, toi, tu as un problème avec ta femme. Ouais. Tu as un problème avec ton mari. Tu as trouvé qu'elle a un défaut, il a un défaut. Maintenant, grâce à Dieu, la majorité, c'est quand même quelqu'un de bien, ton conjoint. Mais il y a un défaut. Alors, je te dis, avant de déclarer le problème, fais un petit heshbon. On est avant Pessah. On n'a pas déclaré encore le problème. Ouais. Fais bitoul bechichi. T'as compris ou non? Par exemple, ton mari il arrive en retard. Tu dis, tu sais quoi? Je vais régler ce problème de retard, je vais crier sur le retard, je vais le détruire sur le retard, je vais le pourrir sur le retard. Tu dis, mais à part ça, c'est vrai qu'il est en retard. Bon, mais il est gentil, il amène la parade, il est souriant, il est sympathique, il est beau, il est mignon, c'est un bon père, c'est un bon gars. Alors tu sais quoi? T'as qu'à annuler ce problème du retard dans la majorité qui est positive, puisque tu n'as pas encore déclaré le problème. On est avant Pessah. Tu dis, non, Hazbe Shalom. Moi, c'est pour le bien, c'est pour l'amour, c'est pour faire évoluer le couple. Donc, je vais lui pointer son problème. Je vais le mettre contre un mur et je vais lui dire, j'en ai marre que tu arrives en retard, tu me pourris la vie. Ah bon? Alors maintenant, quand tu déclares le problème, c'est Pessah. Pendant Pessah, le Hametz n'est pas batel. Il va dire oui, il va comprendre, mais il y a quelque chose qui a été brisé à l'intérieur. C'est Pessah. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, bon, c'est pas grave, on va s'arranger. Ouais, parce que le Hametz, pendant Pessah, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut pas être batel, on peut le brûler. Donc on est un bon couple, on s'aime beaucoup, on va brûler le Hametz. Maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à brûler le problème. Alors si ce Hametz-là, après qu'il a été dévoilé, il a passé Pessah. Assour, les Olam. Hametz, Shav, Pessah. La personne, 19 ans après, elle te dit, je me rappelle encore comment tu m'as vexé quand tu m'as parlé de mon problème de retard. Moi, tu dis, ça fait 23 ans. Ça s'appelle Hametz, Shav, Alav, Pessah. Yafemt. T'as compris, non? Donc ça veut dire quoi, Abotai? C'est-à-dire que quand on a un problème avec quelqu'un, avec soi-même ou avec la réalité, il y a trois solutions. Soit on règle le problème, soit on fixe une date pour le régler, soit on l'élimine. Mais suivi ou non? Comme le Hametz, ouais. Soit on cherche le Hametz, ouais. Soit on le cherche, on le trouve et on règle le problème, soit on élimine. Maintenant, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Les Ma'ana Shalom pour la paix. Ou pour que tout aille bien, ou pour pas pourrir l'atmosphère, ils disent rien, mais ils gardent. Ils éliminent pas le problème, et c'est malhonnête. Parce que l'autre, après, 10 ans après, elle te sort 24 dossiers, tu dis, mais enfin, oui, tu m'as fait ça, et l'autre, tu m'as fait ça, je comprends pas, mais écoute, tu peux pas répondre parce que tu n'es plus dans le contexte. Et même si tu enlèves le texte, il restera quand même le. D'accord? Donc c'est très difficile. C'est une malhonnêteté de tricher comme ça. Il y a un problème, pose le problème. Tu dis non, je ne veux pas poser le problème parce qu'on est bien en ce moment. Alors fixe une date. Tu dis voilà, dans 3 jours, quand je me serai calmé, on va s'asseoir, je vais lui expliquer ce que ça ne va pas. Je n'aime pas sa manière de parler, sa manière d'agir, comment il me charrie en public devant les amis, je me sens mal, je perds des kilos d'angoisse. Et on va parler. Donc ou je règle le problème, ou je fixe quand est-ce qu'on va régler le problème, ouais, ou alors j'élimine le problème. Maintenant, dans les 3 cas, encore une fois, il n'y a pas d'espace. Le problème, il est là, je le règle, il n'y a pas d'espace. Ouais. Je dis, je ne vais pas le régler maintenant, je vais le régler dans 3 jours. Donc, jusque dans 3 jours, il n'y a pas d'espace. Ou alors, je dis, j'élimine le problème, donc il n'y a pas d'espace. Or, la peur, elle vient de l'espace. Vous suivez ou non? Donc, si je dis, j'élimine, si je dis, il n'y a pas de problème, mais je regarde mon angoisse, donc ça dégénère de plus en plus grand la peur. Si je ne fixe pas de date, alors chaque jour, je dis, je vais lui en parler demain, mais à quoi ça sert? Et comment, il le prend mal, et si elle le prend mal, et ça va nous stresser, ça va nous truquer. Donc, en fin de compte, comme je n'ai pas fixé de date, donc jusqu'au moment de l'accomplissement, je vais développer un espace, cet espace, il crée la peur. Ou alors non, j'élimine pas le problème. Alors là, c'est carrément la tumeur à l'intérieur, ça pourrit. Ouais. Et elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de la peur. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Hametz, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est un halom. Puisque c'est moi qui l'a créé. c'est qu'il a pas lieu d'exister. C'est jamais cette pâte. Si vraiment j'avais pris l'eau, la farine, pétri, découpé, donné la forme, troué et mis au four, il n'y a pas de tramette. Donc dans la vie, à chaque fois que tu fais les choses au rythme réel, il n'y a pas de tramette. Mais je ne comprends pas, mais tu tiens ta place d'homme, tu tiens ta place de femme, il n'y a pas de tramette à la maison. Tu tiens ton rôle de parent, il n'y a pas de tramette. Quand est-ce qu'il y a des problèmes? Quand on ne joue pas notre rôle. Après on dit oui, l'école, la mauvaise influence, c'est la famille de ta mère, c'est la famille de... Mais non. On a des beaux parents malades mentaux. Oui, mais si dans notre famille on est équilibré, l'influence elle ne va pas rentrer. D'où elle rentre? Parce qu'il y a un absent. Oui, tu restais 15 heures au téléphone avec ce type. Qui c'est ce type? Je dis, mais si tu étais là tous les jours, elle n'aurait pas besoin de téléphoner à quelqu'un d'autre. Donc lui, il est le fruit de ton absence. Comment est-ce logique ou non? Ta fille, elle s'est fait draguer par tous les gars de la communauté. Mais c'est normal. Depuis quand tu lui as dit qu'elle est belle et que tu l'adores et qu'elle est magnifique? Jamais! Ah ben, y en a d'autres qui vont lui dire. Le vide que tu as créé, c'est la place que tu as fait pour les autres. Donc le hametz, il n'est apparu que dans le vide que tu as créé. Donc la peur, elle ne se développe que dans l'espace que tu lui donnes. Maintenant, cet espace, c'est un manque de confiance. C'est un manque d'influence. C'est un manque de croyance. Mais c'est un espace. Alors, tu es libre. Tu es libre de fabriquer un espace. C'est ce qui est marqué. Alors, si c'est ça, la Gemara dans Brachot Daf Samech, elle dit comme ça. Tanou Rabbanan. Ma'asé be'ilel azaken. Il y a une histoire avec Ilel l'ancien. Chez Aya Baba Derer, il allait sur le chemin. Veshama Tzvacha Ba'ir. Il a entendu un cri dans la ville. Il arrivait vers la ville. Il a entendu un cri. Waah! Il a dit Amar. Il a dit Mouftar Ani She'en Ze Betor Beti. Je suis confiant, je suis sûr que cela n'est pas dans ma maison. Ve'ala Bakatou Vomer. Et sur ça, le verset, il a dit Mishmoa Ra'a Lo'ira. D'une mauvaise nouvelle, il n'a pas eu peur. Nachon Libo Batouar Bashem. Nachon libo, nachon ça veut dire quoi nachon? Il est correct, il est bien, son cœur. Boter machem, celui qui a confiance en Dieu. Alors la Gemara, elle vient, elle dit, ce qu'a dit Rava. Amar Rava, il faut bien vous rappeler le pasouk parce qu'on va jouer un peu avec le pasouk. C'est marqué, d'une mauvaise nouvelle, il n'aura pas peur. Oui. Nachon libo, celui dont le cœur est correct. Batouar bachem, il est confiant en Dieu. Alors Rava, il a dit, kol echid et darashta le aikrad madrish. Il a dit, ce passouk-là, tu peux le lire comme tu veux. Tu peux le lire à l'endroit ou à l'envers. Pourquoi? Il dit, Mishmoara aloyara. Maintenant, celui qui a une mauvaise nouvelle, il n'en a pas peur. Pourquoi? Mataram, elle dit la Gemara, pourquoi? Nachon libo betor bachem. Parce que son cœur est correct. Il est confiant en Dieu. Maintenant, Nachon libo batoar bachem. Oui, celui-là, il est confiant. Oui. Alors, automatiquement, loyare mishmoara. Il n'a pas peur d'une mauvaise nouvelle. Mais je ne comprends pas si. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, quelle différence? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis celui-là, lui il n'a pas peur parce qu'il est confiant. Ou tu dis non, il est confiant parce qu'il n'a pas peur. Ça s'appelle les vases communicants. Oui. Ça s'appelle les montants compensatoires. Maintenant, les montants compensatoires, ça existe dans le bien et dans le mal. Par exemple, quelqu'un qui ment tout le temps et qui s'étonne qu'on ne lui fait pas confiance. Mais il ment tout le temps. Il y a des gens comme ça, ouais. Il rentre jamais l'argent, après il dit personne ne me prête. Mais il est tout le temps en colère, il ne comprend pas pourquoi les autres ne sont pas prêts à tourner la page. Hier, une femme m'a téléphoné en pleurs, elle m'a dit « Rabbi Yechia, ça fait 18 mois que ça dure, il me frappe tous les jours, il me plaque contre les murs, il me donne des coups, je ne peux plus. J'ai 3 enfants, c'est 6 ans de mariage, et je le connais le type. » J'ai dit « Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Vous êtes comme mes frères et mes sœurs, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Ah, j'avais honte de vous parler, j'avais honte. » Le type, je l'appelle, je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu frappes ta femme? Il m'a dit, non, ne commence pas des raisons. D'abord, je vais entendre de tes oreilles que jamais tu recommences. D'abord, commence par ça. Parce que si tu commences à justifier, même les nazis, ils ont justifié. On peut tout justifier. D'abord, tu justifies pas. Ouais. D'abord, tu me dis, il n'y en a pas. Je sais pas, il y a un fou qui est rentré dans moi, c'était pas moi, et dans l'avenir, il n'y en a plus. D'abord, tu commences par ça. Après, on commence à discuter. Sinon, il faut t'enfermer dans un. Et moi, j'appelle la police, moi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je témoigne. Il m'a dit, bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets dans cet appareil? Pourquoi je me mets dans cet appareil? Il y a une femme qui est en train de souffrir dans un trou parce qu'un débile mental, il profite de son ascendant pour la détruire et moi je vais dormir. Il m'a dit, bon, d'accord. Je lui ai dit, maintenant, tu es prêt à écouter? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tu t'énerves? Il m'a dit, quoi? Je lui ai dit, tu t'énerves parce qu'après tu t'es mis en colère. Ça t'énerve que ta femme, elle ne tourne pas la page. Il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, je m'énerve. Une demi-heure après, je viens, je dis, chérie, tu m'embrasses? Elle me dit, non. Alors, je dis, comment ça se fait? Elle veut pas me pardonner, elle veut pas m'accepter comme je suis. Mais t'es fou, toi. Je te mets une série de coups de poing. Je te dis, viens, on signe un deal tous les deux. Tu dis un deal. Mais déjà, je te tue pas. Déjà, estime-toi heureux. Ah, mais il faut tourner la page. Donc, qu'est-ce qu'il a fait la personne? Elle a deux personnes. Il y a deux personnes. Il y a celui-là qui frappe et celui qui s'excuse. Mais lequel des deux j'ai épousé? Le gosse, il voit un père. Un père qui ment, un père qui dit la vérité. Alors, il ne sait plus quand est-ce qu'il dit la vérité, quand est-ce qu'il ment. Donc, quand il promet qu'il va récompenser, il dit peut-être qu'il ment. Quand il promet qu'il va me punir, peut-être qu'il ment. Comment il va savoir? Donc, tu es obligé d'être stable. Maintenant, de la même manière que tu rends instable ton fils parce que tu lui mens, de la même manière que tu rends instable ta femme ou ton mari parce que tu lui mens, eh bien, un jour, tu vas comprendre que même toi, tu te rends instable parce que tu te mens. Même toi, tu deviens instable parce que tu te mens. Et c'est quoi ça? C'est la distance que tu as créée entre toi et toi. C'est là-dedans. Okay, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit le pasouk. Ouais. Il a dit un homme, en vérité, un homme. Mishmoa ra'a lo ira. Il ne doit pas avoir peur d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Libo nachon. C'est quoi libo nachon? Nachon, on a expliqué déjà un million de fois que nachon, ouais, c'est la même racine que kavana, que kivun. Quand quelqu'un il est clair, quand quelqu'un il est correct, quand quelqu'un il est propre, quand quelqu'un il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il sait à quoi il s'engage, il sait qu'il tient sa route, il tient sa parole, il n'a pas peur. Ça c'est libo. Ouais. Maintenant le Rav Dessler toujours il dit Alev ou Ametsiout. La réalité de quelqu'un, c'est pas l'extérieur. Ce que tu vois, il y a des acteurs extraordinaires dans le monde. Ce qui compte, c'est quoi? C'est libo. Libo, c'est le cœur. Il n'y a que lui qui peut savoir. Donc ça ne sert à rien de s'énerver. On ne me comprend pas. On ne me donne pas le crédit. On ne me respecte pas comme on devrait. On ne connaît pas ma valeur. Toi, tu la connais, toi? Tu la connais? Alors, c'est fini. Vendredi matin, j'étais au téléphone avec une jeune fille, 18 ans, que sa mère, ça fait 6 mois qu'elle ne lui a pas parlé. Ils sont en engueulade. Maintenant, il m'appelle d'Israël pour faire le shalom entre la fille et la mère. Moi, j'appelle la fille. Moi, j'appelle jamais. Mais là, j'ai appelé. Pourquoi j'ai appelé? Parce qu'il y avait une autre histoire avec une autre fille que j'ai suivie. Enfin, j'ai suivi la mère. Et la fille, elle a pris des distances. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. J'ai envie de vivre ma vie, tout ça. Je veux un appartement toute seule. Laisse-moi tranquille avec la religion. Et maintenant, elle vient d'apprendre que sa fille, elle est homosexuelle. Bah oui, parce que les parents, c'est des repères. Quand tu t'en vas des repères, tu sais pas ce qu'il y a quand il n'y a plus de repères. Jusqu'où ça va le non-repère? Ça m'a tellement samimine Amma. Et que j'entends l'histoire de cette maman et que ça me fait penser à l'autre, j'ai dit, il faut que je téléphone. Jamais j'appelle. Mais le bon Dieu m'a dit appelle parce que là je sens mal que je n'appelle pas et dans 2 mois elle va me dire elle est avec un babar ou elle est avec un deb ou avec un drogué et moi j'ai dit j'aurais pu lui parler. Je prends le téléphone. Bon ben au Hachem c'était pas du tout le même cas. Comme quoi avoum et toudine badine, chaque cas il faut le regarder différent. C'est une fille très sérieuse, très mature et tout ça. À la limite elle était plus calme que sa mère pour dire un peu le. C'est un peu compliqué. Mais l'idée c'était quoi? C'est que la personne elle avait une distance, elle avait une écoute. Je lui ai dit, écoute, votre maman, peut-être qu'elle se trompe. Mais la peur de votre maman, elle est mauvaise. Mais le souci de votre maman, il est bon. Je lui ai dit, d'abord, est-ce qu'elle vous aime, votre maman? Il dit, bien sûr, je sais qu'elle m'aime. Mais elle me saoule. Je lui ai dit, laquelle des deux en vous qui sait qu'elle se sent saoulée et laquelle des deux qui se sent aimée? Eh bien, celle qui se sent aimée, elle va supporter celle qui se sent saoulée. Toute la vie, c'est ça. Ouais? Toute la vie, c'est ça. Le business, par exemple, il y a des risques. Alors tu dis, ouais, j'en ai marre de prendre des risques. Alors tu te mets employé. Ouais, mais l'employé gagne 1000 euros. Ah ben alors tu te mets patron. Donc il y a plus de risques, il y a plus de bénéfices. Là, il y a moins de risques, il y a moins de bénéfices. C'est un choix. C'est comme ça toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Là tu dis, oui, pour qui il se prend, c'est un héros. Non, il ne sait pas qui s'est pris pour un héros. Il a été lui-même. Maintenant, lui-même, quand un type il saute dans le feu pour aller chercher quelqu'un, on appelle ça un héros. C'est tout. L'autre, il a dit, écoute, il y a des pompiers, c'est pas mon métier, c'est pas moi de le faire. Bon, ça s'appelle un pauvre type, c'est pas grave, il a sauvé sa vie, c'est normal. Donc, il a rien fait celui-là, il a juste été lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment, il a eu une impulsion d'être fort, et il a été fort. Maintenant, comme il n'a pas mis d'écran entre son impulsion et lui-même, donc la peur n'avait pas d'espace. Mais l'autre, il a une impulsion, mais entre l'impulsion et lui-même, il réfléchit. Qui a dit, est-ce nécessaire? Pourquoi faire? D'autres le feront. Je connais une communauté. Ça fait 40 ans, il n'y a pas de mikvé. À quoi ça sert? Pourquoi faire? On va faire un autre. C'est honteux. Comment les femmes, elles rentrent? On va savoir qui c'est qui va. Ils n'ont pas fait. Des religieux. Il est venu un petit jeune. Un petit jeune. Bon, il se trouve que c'est un Lubavitch, mais ça ne veut rien dire. Mais bon. Il est venu un petit jeune, il est venu chez moi, il m'a dit Ravechia, voilà, je suis installé là-bas, j'ai décidé de faire un mikvé. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, bah, on va faire une soirée et je voudrais que vous me fassiez un petit film pour encourager. Je dis, mais qui tu es toi? Il me dit, rien, mais j'ai fait une petite communauté, j'ai fait un petit. Je suis là-bas. Je dis, comment tu vas faire? Il me dit, voilà, j'ai cherché un terrain, j'ai trouvé un terrain, 350 000 euros, il y a un pavillon et un terrain. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le terrain, j'ai acheté tout. Je dis, mais tu as l'argent? Il me dit, non, j'ai pas. Je dis, mais tu es fou? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, ma femme, elle gagne 1000 euros, moi je gagne 1200 euros, et je dois payer 4000 euros par mois. Je dis, comment tu fais? Je trouve l'argent comme ça, je fais, mais je peux pas penser qu'il n'y a pas de mikvé. Il a dit, le pavillon, je l'ai acheté, je l'ai pris 1600, je peux même pas payer, je l'ai pris sur moi. Et les 1000, et le reste, le terrain, 100 000 euros, j'ai dit, c'est moi qui ramasse l'argent, je veux pas que la communauté ait le truc, mais je vais faire un gala pour ramasser le reste pour faire le mikvé. Le mec, maintenant, il a fait le gala, je lui ai dit, un petit jeune comme ça, il a ramassé 200 000 euros. Il y avait personne dans la salle, il a fait 200 000. Ça veut dire quoi? Le mec, il est fou. Il est fou. Oui? Mais il est fou d'une mitzvah. Il n'a pas peur. Un type normal, il dit, mais c'est pas mon problème, mais c'est la communauté qui doit s'occuper. Et tu te rends compte des sommes pareilles. Et je vais, parce que lui, il a fait tous les crédits en nom propre. Avec des crédits Khtada et des revolving et des traloed. Et pour ramasser déjà pour acheter. Oui, vous comprenez ou non? Il est fou. Maintenant, ça s'appelle Boteh Bashem. Libo Nachon. Son cœur, il est clair, parce qu'il sait pourquoi il le fait, ou Boter Bachem. Celui que Libo et Nonahon, ça veut dire déjà lui-même, je le fais, je dois le faire, je dois pas le faire, je mérite de le faire, à quoi ça sert de le faire? Déjà, Libo, il est pas Nahon, déjà que ça va pas aller. Ouais, déjà, il part pas confiant. Ouais, il va tomber, il va se tordre le pied, il va. C'est normal. C'est dangereux. C'est comme quand tu pars faire du vélo. Ouais. Si, quand tu commences à pédaler, tu dis, ah, oh, ça va vite. Les freins, ils sont pas bons. Toi, tu vas te casser une jambe aujourd'hui, toi. Tu vas pas te casser la jambe parce que tu es tombé de vélo. Tu t'es déjà cassé la jambe dans ta tête avant de monter sur le vélo. L'autre, il dit, on va me refuser le crédit, on va me refuser le crédit, on va me refuser le crédit. On lui a refusé le crédit. Après, il dit, t'as vu, je t'avais dit qu'on avait refusé le crédit. Mais lui, il est déjà parti pour aller refuser le crédit. Pourquoi? Parce qu'au fond, la pression sociale lui dit, il faut acheter la maison. Mais à l'intérieur de lui-même, son être psychologique, il dit, comment je vais faire pour payer? Donc le banquier, il a reçu qui? Quelqu'un qui a dit, comment je vais faire pour payer? Est-ce qu'on prête à quelqu'un qui ne sait même pas comment il va faire pour payer? C'est comme les gens, ils disent, j'ai 35 ans, il faut que je me marie. Mais à chaque fois, ils trouvent un défaut. Ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils ne veulent pas se marier. Mais la maman, elle les presse. Le père, il dit, je veux voir les petits-enfants. Tous les copains sont mariés. Alors, il a une pression. Mais lui, au fond, il ne veut pas. Il dit, attends, je suis chez ma mère. Elle connaît mes plats, elle connaît mes goûts, elle me saoule pas, elle ne casse pas la tête, j'ai ma chambre. Qu'est-ce que j'ai besoin? Mon père, il me donne l'argent de poche, il me paye la voiture. Qu'est-ce que j'ai besoin? Que Dieu le garde jusqu'à 120 ans, comme ça moi je peux glander jusqu'à 119. Comme ça ils penchent les gens. Pour ça qu'il faut se marier jeune. Pourquoi? Parce que quand on se marie jeune, on est fou. Mais quand les gens ils dépassent la folie, ils deviennent intelligents. Et l'intelligent, il ne fait plus rien. Ça va pas la tête. Tu te rends compte, les dettes, les souffrances, les responsabilités. Je vais les mettre sur quelqu'un d'autre. L'autre, il a 78 ans, il va tous les matins au bureau. Et lui, il se lève à 2h de l'après-midi. Il dit, il faut que je dorme bien, comme ça ce soir, si Dieu veut, je fais une bonne nuit. Il fait la sieste pour passer une bonne nuit. Comme il s'est levé à 2h, il fait une sieste jusqu'à 6h. Après, il dort bien. Après, il va voir le docteur, il dit, vous savez, j'ai des problèmes d'insomnie. C'est normal, il dort le jour. Et c'est quoi l'idée? Quelle différence entre celui qui dort physiquement, celui qui dort psychologiquement, celui qui dort intellectuellement, celui qui dort spirituellement? C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ouais. Donc ici, c'est marqué très très clairement, et c'est ça qui est incroyable, c'est un passage où tu n'as pas besoin de te casser la tête. Il dit pourquoi? Il dit, regardez ce qu'il dit, on avait posé la question, est-ce que c'est parce qu'il est confiant, donc il n'a pas peur? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas peur qu'il est confiant? Alors le Rashba, c'est ramené là-bas dans le Rav Dessler, vous pouvez aller le voir tout à l'heure si vous voulez. Le Rashba, il amène au nom du Raïvod. Il dit comme ça. « Shekivan shelibo nachon » Puisque son cœur est correct, « Batouar b'Hashem » il a confiance en Dieu, « Vadaï Hashem itbarach lo ya'aselo ra'a ou mitkayem mashebotea » Dieu ne va pas lui faire de mal et Dieu va accomplir ce en quoi il croit. Attention, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Parce qu'un homme, il a peur qu'il lui arrive du mal, et il espère que ce qui va lui arriver, c'est du bien. Mais c'est deux choses. Il y a des gens, par exemple, il ne leur arrive pas de mal, mais il ne leur arrive rien. Il y a des gens comme ça. Ils sont là. Ça fait 28 ans qu'ils attendent le bus. il est en retard. Hein. Vous dites, oui, vous n'avez pas remarqué, oui, il est en retard. Il y en a, il attend un business, il attend un chidour, l'autre il attend machiar, chacun il attend. Il passe leur vie à attendre. Mais pendant ce temps, il a fait quelque chose. Il dit, je ne sais pas, j'attends. Il fait rien. Tu veux que machiar vienne, fais-le venir. Non, non, je l'attends. Mais non, il faut le faire venir. Il va venir. De toute façon, il va venir. À 6000 ans, 5008, 3002, il va venir. Mais tu peux le faire venir. Tu veux de l'argent, va travailler. Ah non, c'est compliqué. Tu veux avoir des midotes, remets-toi en cause. Oh non, pourquoi faire? Grâce à Dieu, j'ai tous les livres qu'il faut. Non, mais il faut les lire. Ah bon? Il faut se remettre en cause, il faut que ça remue à l'intérieur. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est que la personne, elle crée sa réalité. Ou non, elle la subit. C'est quoi le bitachon? C'est quoi la confiance en Dieu? Est-ce que la confiance en Dieu, c'est d'espérer qu'Hachem va me donner ce que je veux? Ou la confiance en Dieu, c'est d'accepter que ce que Dieu m'a donné, c'est ce que je devais recevoir. Est-ce que le bitachon c'est passif ou c'est actif? Est-ce que le bitachon c'est dynamique et ça crée la réalité? Ou le bitachon c'est d'accepter que ma réalité elle est adaptée à moi? Il y a deux écoles. Ouais. Il y a des gens qui vont penser, non, le bitachon, ouais, Ezehu Ashir, Samir Bechelko, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mon corps, ça sert à rien, et bats-toi la tête, et prends-toi la tête, et rends-toi malade, ça sert à rien. Je dis, mais quand même, il faut quand même faire un effort, il faut faire une chitadlout. Alors on dit, il est interdit de s'angoisser sur une chose que l'on ne peut pas résoudre. Résoudre. Maintenant j'ai remarqué, les gens, tout ce qui n'est pas entre leurs mains, ils s'angoissent. Mais tout ce qui est entre leurs mains, ils s'en fichent. Ils ont de l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer en Iran? On a peur pour Israël. Il paraît que les Fedaïn, les Hababénin. Mais qu'est-ce que ça te touche à toi? Tu habites à Milan. Par contre, ton fils, tu sais où il est maintenant? Il est 4 heures du matin, tu sais où il est? Non, j'en sais rien. Ah bon? Ta fille, t'as vu comment elle se maquille? Ah ben c'est pas grave, c'est une fille. Mais elle a 8 ans et demi. Ce qui est entre ses mains, ça ne l'intéresse pas. Et ce qui est dans le monde entier, l'avenir cosmique de la planète, ça l'intéresse. C'est bizarre. Pourquoi encore une fois? C'est encore une façon d'échapper à sa réalité. Donc, libo et nonahon. Et no botéah. Donc, comme il n'est pas botéah, il va lui arriver des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est quoi la réalité? La réalité, j'ai écrit un livre de 400 pages pour ça. J'espère que vous l'avez lu déjà. La réalité, c'est une invitation à être. Maintenant, quand tu ne vas pas à l'invitation, on te renvoie à l'invitation. Quand tu ne vas pas à la deuxième invitation, on t'envoie un commandement de venir. Quand tu refuses de venir, on t'envoie la police. Donc la vie, moins tu l'acceptes, plus elle est dure. C'est comme le type qui t'appelle 4 fois. La 4e fois, il s'énerve. Pourquoi tu t'énerves? Mais ça fait 3 fois que je t'appelle. Donc l'autre, ça fait 2 ans qu'elle te dit, bon, tu m'épouses ou tu m'épouses pas? Oui, mais je comprends, c'est pas facile. Attends. Oh. Ce qu'on fait dans le lit, c'est ce qu'ils font des gens mariés, non? Alors peut-être qu'on pourrait remettre les choses dans l'ordre. On se marie. Ah, tu comprends le caractère? Ton nez, il est bizarre. Mon nez, il est bizarre. Tu me le filmes à l'envers, là. Tu penses qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Laisse-moi tranquille. Tu penses qu'on est fait l'un pour l'autre? Alors viens, on va à la synagogue. Ou à la mairie, je ne sais pas. Ça dépend quel niveau de laïcité on a atteint. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'on va concrétiser. Pourquoi tu ne concrétises pas? Tu dis oui, tu comprends. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Du hametz. Moi, je les vois, les gens. Oui, vous comprenez, monsieur le rabbin, elle est comme ça. Attends, de quoi tu parles? De quoi tu parles? De qui tu parles? Pourquoi tu n'as pas tes défauts, toi? Oui, bien sûr. Alors, on avance. C'est marqué. La personne, elle produit le bien. Ou la personne, elle produit le mal. Elle-même. Personne ne le fait pour elle. C'est toi et ta réalité. Maintenant, ta réalité, elle te colle comme ça. Mais quand tu la refuses, après tu t'étonnes, il y a quelqu'un devant. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est pour ça que je donne toujours l'exemple. C'est comme les gens disent, « Oh, vous savez, monsieur le rabbin, j'avais un très beau projet, on m'a mis un bâton dans les roues. » Alors moi, je suis un peu nia, je dis un bâton dans les roues. Donc j'imagine une roue, une belle roue, vous savez, les roues de carrosse, avec les rayons en bois, les gros là. Et il y a un type qui est venu avec un bâton, il a mis le bâton dans la roue, il a bloqué la roue, alors il m'a mis un bâton dans la roue. Wow, j'ai compris. D'accord. Alors je lui dis, excuse-moi, mais moi, je pense que si la roue, elle tourne tellement vite, que chaque fois que le mec il met le bâton, il tombe sur un rayon, il ne peut pas mettre le bâton dans les roues. Comment il a fait? Donc l'espace entre les rayons, c'est toi qui l'as créé. La vitesse à laquelle ça tourne, c'est toi qui l'as mis en place. Donc c'est toi qui as fait rentrer le bâton. Moi par exemple, je fais des conférences, d'accord? En vérité, c'est pas parce que je suis impressionnant. Il n'y a jamais de question. Les gens disent, on peut poser des questions. Je n'ai pas envie de poser des questions. Mais il n'y a pas de questions. Pourquoi? Parce qu'en vérité, une question dans une conférence, elle dépend du rythme de la conférence, du rythme des idées, parce qu'il faut déjà les suivre. Et c'est un peu rapide. Et du raisonnement. Si le raisonnement, il est de cause à conséquence, ouais, A implique B, implique C, implique D, implique... Donc le type, comment veux-tu qu'il ait une question? Donc la question, elle vient de l'espace que tu as créé dans le raisonnement. Non, si tu as une transition qui est un peu bizarre, oui, ou si tu as un rythme qui est trop lent, tu as créé un espace pour que la frustration que tu as créée en faisant le développement, au lieu d'être maîtrisée sous la forme de « je vais écouter la suite », elle va sortir sous la forme de « fais le taire » parce qu'il te remet en cause. Parce que la communication, c'est un jeu de remise en cause. Moi, par exemple, je vous parle, il y a des choses qui dérangent. Donc comment je peux permettre de dire des choses qui dérangent à des gens que j'aime bien? Vous savez pourquoi? Parce que je ne vous parle pas à vous, je me parle à moi. C'est vous qui assistez à l'expression de mes problèmes personnels. Vous ailleurs. Maintenant, si ça profite à quelqu'un, on sent que ça profite. C'est pour ça que c'est marqué « Ochiar, tochiar, et amitecha ». Tu dois réprimander ton prochain, ton frère. Si tu te sens supérieur, mais tais-toi. Donc moi, je me parle à moi. Et moi, je règle mes problèmes personnels. Et si ça peut profiter à quelqu'un, mais c'est brava. Mais si moi, j'ai pas de problème et vous avez des problèmes, alors qu'on est entouré de demeurés, celui qui pense que tout le monde est demeuré, c'est qu'il est le roi des demeurés. Et je suis poli. D'accord? Donc ici, c'est pareil que quoi? Qu'en vérité, moi, le rapport que j'ai avec la réalité, c'est moi qui crée cette réalité, c'est moi qui la crée. Donc comment tu vas séparer les deux, que celui qui est confiant, il n'a pas de problème? Pourquoi? Parce que le problème, justement, il est fait pour te donner la maturité dans la confiance. Donc moins ta confiance, plus tu augmentes les exercices de confiance. Comme celui qui triche, plus il triche, plus on est soupçonneux et on le met à l'épreuve pour voir s'il triche. Mais celui qui triche pas, on va pas le mettre à l'épreuve pour savoir s'il triche. Les gens ne comprennent pas. Il dit, je suis poursuivi, j'ai un mauvais mazal, je ne suis pas dans la bonne rue, cette maison elle est maudite. Mais non, mais, abotaille, je m'excuse de parler simplement. Mais dans la marmite, il ne peut pas y avoir autre chose que ce que tu as mis. Moi, les gens, ils viennent à la maison, ils s'assoient. Oh, on est calme, on est bien, on est détendu. Maintenant, on est nerveux, des fois, ils viennent, des gens, ils se détendent. Oh, ils disent, je ne sais pas, c'est la couleur des murs, c'est les tableaux, c'est les séfarimes. Je dis, non. C'est l'amour, l'intelligence, la finesse, la douceur, la tendresse, l'équilibre, la retenue, l'amour. C'est ça qui est dans la marmite. Tu mets ça dans ta maison, les gens ils rentrent, ils se sentent bien. Tu mets la humma, les nerfs, la douceur, la triche, l'embrouille. Les gens ils se sentent mal, c'est normal. Alors quelle différence entre ta maison qui est une marmite, ouais, entre toi qui est une marmite, ton corps qui est une marmite. Qu'est-ce que tu fais bouillir dans ta marmite? Les gens ils font bouillir quoi? En ce moment, de la frustration, des nerfs, de l'angoisse, de la haine, de la méchanceté. Je dis, qu'est-ce que tu crois que ça va t'apporter? Eh bien, je ne sais pas, mais c'est comme ça, j'arrive pas. La bouteille, ça n'existe pas, ça. Rien ne peut rentrer dans ta marmite si tu ne l'as pas mis dedans. Donc, toi, tu t'occupes de l'ibonachon. Toi, tu t'en occupes, ouais. Et si tu me dis, c'est plus fort que moi, je dis, c'est le hametz. La pâte, tant qu'on la travaille, elle ne devient pas hametz. Par contre, si toi, non seulement que tu ne retiens pas la fermentation, mais en plus que tu y participes activement. Alors de quoi tu te plains? Comprenez ou non? Les gens ils font de la victimisation et après ils te disent je suis entouré de bourreaux. Mais sachez que le premier fabricant de bourreaux, c'est la victime. La victime. Quand il t'arrive un problème, c'est un accident. Quand il t'arrive deux fois, c'est une négligence. Quand ça t'arrive quatre fois, c'est de la complicité. On est en 2011, on est en démocratie. Tu n'es pas dans un goulag, tu n'es pas dans une cellule. Tu peux t'enfuir, tu peux te soigner, tu peux appeler la police, tu peux appeler ton psy, tu peux faire quelque chose, tu peux appeler le rabbin. Tu dis non, vous savez, on n'est pas comme ça chez nous. Moi, je vais le pousser à bout pour qu'il me détruise, comme ça je pourrai l'accuser. Alors achète un tabouret et une corde, on va trouver une solution. Il s'enferme la personne, ouais. Il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça ce qui est marqué là-bas, ben c'est marqué Ashre Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Alors nous on vient de dire que la peur n'a pas de réalité et qu'il faut la fuir. D'un autre côté c'est marqué Ashre Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Et la Gemara elle dit Ahou Bedivre Torah Ketiv. Ça a été écrit à propos des paroles de la Torah. Alors je comprends pas. Un homme il doit avoir peur ou il ne doit pas avoir peur? Alors on a dit tout ce qui concerne Olamazé, tout ce qui concerne la matérialité, la relation avec l'argent, avec le réel, avec le corps, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est que des bêtises, c'est de la perte de temps. Même avec la santé, la peur, elle est destructrice. Tu dis, mais quand même, il faut être conscient. Il faut être conscient de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir une hygiène de vie normale. Mais quand tu as un déséquilibre maintenant, tu vois que tu es fatigué, alors qu'est-ce que tu as ta solution? Soit tu vas dormir, soit tu vas te prendre la tête pourquoi je suis fatigué. Mais la prise de tête que tu es fatigué, elle va t'empêcher de dormir, donc tu vas être encore plus fatigué. On te dit mange équilibré. Ah bah ça m'énerve, comme on m'a angoissé que de manger, il paraît que pas manger équilibré, ça crée des problèmes vasculaires, cardiovasculaires, tellement ça m'angoisse que maintenant j'arrête pas de manger du sucre et de manger des hamburgers et des bonbons. Je comprends pas. Quand tu es angoissé, tu te rends encore plus malade. Alors comment on va faire? Dans la matérialité, on a dit que la peur, c'est une taout. Ouais, et c'est, on a dit que c'est mafsid et taouvé, ça fait perdre le présent. Dans la spiritualité, c'est marqué « Ashrei Adam et Fachet Tamid », heureux l'homme qui a toujours peur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les religieux, ça doit être des angoissés, des névrosés qui ont toujours peur. Alors c'est un truc incroyable. La peur, dans tout ce qui est matérialité, ça détruit l'homme. Mais la peur, dans ce qui est spiritualité, ça construit l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a deux peurs. Il y a une bonne peur, une mauvaise peur. Par exemple, toujours on pose la question. Est-ce qu'un pilote de Formule 1, il a peur ou il n'a pas peur? Il roule à 280 km/h de moyenne. Est-ce qu'un pilote de chasse, il a peur ou il n'a pas peur? Lui, il va à Mach 2, lui. Ouais, Mach 2. C'est une vitesse incroyable. Quand il est en combat, il a une tension énorme. Vous savez, quand il voit l'avion déjà derrière lui, l'avion ennemi derrière lui, c'est plus la peine d'avoir peur. Il est déjà mort. Parce que l'autre, il l'a bloqué sur son radar, le missile, il est parti. Subhalo, ouais. Donc c'est quoi l'idée? Donc la peur, est-ce qu'elle existe? Et la peur, est-ce qu'elle existe chez les gens comme ça qui sont, entre guillemets, payés pour avoir peur? Alors en fait, il y a deux peurs. Quand la peur, elle te fait lâcher les commandes, ça c'est la mauvaise peur. Mais quand la peur, elle augmente ta conscience et ta vigilance, c'est la bonne peur. Le pilote, il a peur. Mais cette peur, ce n'est pas une peur qui fait la peur espagnole, ce qu'on appelle, puisque l'espagnol hispanique par définition, d'accord? Donc la peur qui te fait paniquer, elle est interdite, celle-là. Mais la peur qui augmente tes capacités, elle est permise, elle est recommandée. Ashrei Adam et Fachet Tamid, c'est-à-dire que le tzaddik, comme ça il dit le Rav Dessler, il dit le tzaddik, lui, comme il porte sur lui la responsabilité, il fait attention à l'alakha, il fait attention au Chilul Hashem, il fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, il sait que chaque acte, il a une portée, il a des causes et des conséquences. Alors il a peur. Mais pas une peur qui fait mal. Une peur d'appliquer toutes les règles de l'alakha. Ouais, une peur de faire du gazelle et du gazeldat et d'embrouiller et de méchant. C'est tout. Mais pas une mauvaise peur. Une bonne peur. Parce qu'il fait attention. Celui qui dit, ah, je t'en prie, arrête, tu vois le mal partout. Lui, Bichlal, il est déjà dedans. Ouais. C'est comme si je te dis, voilà, tu vas traverser un tunnel. Maintenant, ce tunnel, il est couvert de goudron sur toutes les parois et il est dans le noir. Et toi, tu es en costume blanc. Mais tu dois sortir de ce tunnel sans une tache. Tu dis, c'est pas possible, il y a du goudron partout. Comment tu vas faire? Alors quelqu'un vient et tu dis, écoute, si tu veux, je te donne le plan. C'est une cassette, tu l'écoutes comme ça, tu écoutes. Dès que tu rentres dans le tunnel, tu vois rien, de toute façon, tu peux fermer les yeux. On te dit, deux pas à droite, un pas à gauche, un pas à gauche, deux pas à droite, avance de 10 mètres, recule de 10 mètres. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle t'a donné un chemin. Il y a des gens qui disent, allez, je t'en prie avec tes chemins, j'ai besoin de tes conseils. Alors ils font un pas en avant, une couche de goudron. Avec l'angoisse, ils reculent, ils se prennent l'autre couche, et c'est fini. C'est terminé. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ah, je t'en prie, la réflexion, la remise en cause, c'est des bêtises, c'est des trucs de stress, des trucs... Après, je suis débordé, j'en peux plus, ma femme, mes enfants, le business, l'embrouille, les mensonges, je suis rattrapé par des trucs, je suis maudit, on t'a donné un mode d'emploi. Tu veux faire le malin. Alors, débrouille-toi avec toi. Non, alors pour faire des bêtises, tu dis laissez-moi tout seul. Mais pour réparer, tu veux que les autres y viennent. Parce que t'as déliré. Eux-mêmes ils te disent, tu sais quoi? J'ai envie de délirer maintenant. Voilà, tu sais quoi? J'ai envie de délirer. J'ai envie de délirer, voilà, j'ai envie. Tu veux lâcher les rênes? Mais la pâte elle va devenir chametz. Quand elle devient chametz, on ne peut pas la rendre matzah. C'est pas grave, je m'en fous, je fais ce que je veux. Alors si tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Je viendrai à ton enterrement avec joie. Après, tu viens, tu me dis, j'ai attrapé une maladie bizarre, sans protection. Comment je vais expliquer à ma femme? Qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants? Comment je vais faire? Je suis président de communauté. Je dis, maintenant tu viens après. C'est bizarre. Et je dis pas des, je parle pas maintenant des idiots, des ingénieurs et des médecins. Et des, moi, j'ai côtoyé des milliers de personnes. Je dis des fois, je dis, mais attends, mais. Et j'ai dit, t'as pas de cerveau, quoi. Qu'est-ce que ça met un yaourt là-dedans? J'ai pas réfléchi, je me suis laissé porter par le mouvement. Ma tentation était trop forte. Et c'est marqué ici. Tu dois avoir peur. Ashra Adam et Fahad Tamid. Un homme marié, il doit avoir peur. Il est tout seul à Hong Kong, il est 1h du matin, et il y a une call, je sais pas quoi, qui tape à la porte. Il doit trembler. S'il dit, oh, rien de mal, elle boit un petit verre, on discute. Mais comment elle est rentrée? Comment elle est rentrée? Tu dis, ah, Hazvi Shalom, mais personne n'est au courant. Pourquoi t'as mis les tefilines ce matin, non? Oui, comment elle est rentrée chez toi? Comment elle est rentrée dans ta chambre? T'as pas peur? C'est ça ton problème, t'as pas peur? Tu dois avoir peur. Si, c'est normal d'avoir peur, mais pas encore une fois, pas une peur de. Non, tu. Moi, j'ai eu des cas. La femme le dit, oui, je vous avais raconté ça. Une femme, elle vient chez moi, elle me dit, voilà, mon mari m'a trompé, mais c'est un homme extraordinaire, je vous en prie, recevez-le. Il vient à la maison. Le type, je lui parle pendant 2h30, il me dit, j'ai compris, j'ai une femme super et tout ça. Il prend le téléphone et appelle la maîtresse pour casser. Maintenant, elle aussi, elle est juive, 4 enfants, ils font ça, la méadrine. Il ne faut pas dire, elle fait une belle méadrine. Les mitzvot, glad kacher la méadrine. Il appelle la femme, il dit, voilà, on arrête et tout, je reprends avec ma femme, elle est extraordinaire, je suis un fou, je sais pas ce qui m'a pris et tout ça, arrange-toi avec ton mari, dégage, ciao. Qui c'est qui m'appelle à 2h du matin? La maîtresse. Non mais je vous dis, moi j'ai pas besoin d'avoir la télé, moi j'ai, grâce à Dieu, j'ai. Elle me dit, écoutez, elle m'appelle, elle me dit, comment avez-vous osé briser un couple? Elle me dit à moi, comment avez-vous osé briser un couple? Je dis, mais madame, vous avez brisé deux. Le vôtre et le sien. Moi, j'ai brisé un. On est bien, tous les deux. Elle m'a dit, mais c'est mon âme sœur, c'est l'homme de ma vie. Avec lui, j'ai vraiment ressenti les choses et je l'aime. Mais vous êtes un fou, vous êtes un malade. Je dis, mais madame, non. Écoutez, madame, je commence à lui expliquer. Comprenez la tentation. Le mari de la voisine, il est toujours mieux. Elle me dit, ah, vous commencez à me bourrer la tête, à me faire un lavage de cerveau avec votre religion de merde. Oulalalalalala. Je dis, bon, écoutez, madame, moi, j'ai voulu vous parler raisonnablement, comme un rabbin à une femme juive. Maintenant, si vous ne voulez pas parler de ce domaine-là, je pose une question. Entre le premier moment où vous l'avez vu et le moment où vous avez couché avec lui, il s'est passé combien de temps? Elle m'a dit, une semaine. Je dis, madame, en une semaine? Je dis, mais alors pourquoi vous prenez pas d'argent? Faites-en un métier. Ah! Et c'est vexé. Ils disent, bon, ouais. Ah, il y a un temps de réaction quand même. D'accord. Donc, elle m'a dit, mais comment vous me parlez comme ça? Je dis, mais madame, excusez-moi. La première fois qu'il est venu pour vous toucher, ouais, vous avez vu le visage de votre mari et de vos enfants ou non? Elle m'a dit, non. Je dis, oh, vous n'êtes pas mariée. Mais même une Goya, elle se sent mal que le type, il va la toucher alors qu'elle est mariée. Tu te sens pas mal? Eh ben non, les sentiments étaient plus forts, j'ai senti que c'était lui. Mais tu te rends compte? Mais alors je lui dis, vous êtes même pas marié. Alors de quoi vous parlez maintenant? De quel couple? Tout est virtuel, tout est faux, tout est très loin, tout est. Ça va pas la tête, non? Ok, on a brisé quoi puisqu'on n'a construit rien? Donc ce que vous avez construit, vous ne l'avez pas détruit. Et ce que vous avez détruit, vous ne l'aviez pas construit, donc il n'y a rien. On est bien. Bonnet blanc, blanc bonnet, la touma et les atomes au même niveau. Oui, mais ça, bien sûr, mais ça, sachez que le goût de l'interdit n'intéresse pas, le goût de du permis n'intéresse pas les gens qui veulent le goût de l'interdit. Le vin non cachère n'a pas le même goût. La pizza au lardon, c'est meren ou la maba. C'est comme ça, ouais. Une femme, elle a téléphoné, elle a dit, écoutez, monsieur le rabbin, j'ai un gros problème, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, la bonne, elle a mis un morceau de cochon dans la dafina. Quoi? Elle a mis un morceau de cochon dans la dafina, et ça rentre dans 5 minutes, Shabbat, qu'est-ce que je dois faire? Oh, le rabbin, il est embêté, il dit, mais encore, écoutez, madame, c'est pas possible, mais enfin, quoi. Eh ben, je sais pas ce qui lui a pris, une espèce de roumaine, très loin, elle était en train de manger son truc, elle a dit, tiens, on va aller faire une mise bas pour ce juif, t'inquiète. Elle a mis le morceau de cochon dans la dafina, il dit, bon, le rabbin, il a dit, écoutez, écoutez, madame, écoutez, attends, bon, il y a combien de quantités? Bon, il y a 60 fois plus. Bon, exceptionnellement, puisque personne n'a fait exprès et tout ça, et qu'on ne retrouve pas le petit morceau, eh ben, c'est cachère, et passez un bon Shabbat, Shabbat Shalom. 60 fois plus. Oui, c'est une halakha. Non, attendez, c'est. A posteriori, c'est arrivé un accident, c'est pas qu'on a fait exprès. Alors deux mois après, le rabbin il rencontre la femme, il dit alors excusez-moi, comment ça se passe et tout ça. Ah, elle dit depuis que je mets, est-ce que vous m'avez dit depuis que je mets le lardon dans la dafina, elle a un goût. Elle a mal compris. Bon, c'est quoi l'idée? Ici c'est marqué, des gens malheureusement, ils sont convaincus que le bonheur est dans l'horreur. L'horreur. Donc tant qu'ils ne sont pas dans la pourriture, ils pensent qu'ils peuvent mieux faire. Ouais. Alors qu'ils ont tout pour réussir. C'est pour ça que je dis toujours. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, par exemple, ils sont mariés. D'accord, je donne l'exemple du mariage parce que c'est un exemple que vous comprenez tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent en vacances dans un hôtel magnifique à Bali. Ils ont loué une île. Ils ont pris un traiteur cachère. Ils ont loué la plage. Ils ont 54 serveurs. Ils passent une semaine de folie. D'accord? Mais Rabotaï, celui qui passe une semaine de folie, c'est pour rattraper 51 semaines pourries. Moi, je dis le contraire. Prenez un hôtel pourri, une semaine pourrie, ayez un comportement pourri, avec de la bouffe pourrie, une ambiance pourrie, des clients pourris. Et vous dites à votre femme, toute la pourriture de l'année, on va la mettre dans cette semaine. Et toute l'année, on va kiffer grave, on va être bien. C'est-à-dire, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est pas de faire quelque chose qui va compenser le pourri. La mitzvah, c'est de rendre le quotidien extraordinaire. Les gens, ils veulent des vacances extraordinaires. Mais c'est le quotidien qui doit être extraordinaire. Enfin, c'est pareil dans la vie. Dans la vie, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, oui, mais tout n'est pas facile. D'accord, tout n'est pas facile. Alors, ce qui n'est pas facile, laisse-le pas facile. Mais ce qui est facile, laisse-le facile. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu rends compliqué ce qui est facile. Donc après, tu dis, rien n'est facile. C'est ton fils, eh ben, assume-le, arrange-toi avec lui. Et il comprend rien, eh ben, explique-lui. Eh ben, je vais expliquer 4 fois. Eh ben, peut-être qu'il a besoin de 5 fois. Et peut-être la 5e fois, tu ne vas pas comprendre pourquoi il ne comprend pas. Tu vas comprendre pourquoi tu lui expliques mal. Peut-être, c'est bien. C'est comme ça. On dit « Kolwardo Mazalo ». Ouais. C'est ta réalité. Alors tu l'assumes et tu grandis avec. Il dit « Ce lien-là, c'est ma réalité, je l'assume, il n'y a pas de peur. » Donc du début à la fin du phénomène, tu l'as gardé. Comment on appelle ce phénomène où on garde la mitzvah du début jusqu'à la fin? On appelle des matzot shmurot. Elles sont shmurot. Oui, il n'y a pas de hametz. Il sait, c'est exactement pareil ici. Que quoi? Kol, regardez ce qu'il dit Rav Dessler. Kol ma'asé à Adam. Toute l'action de l'homme. Ben beruchaniut, ben begashmiut. Que ce soit dans la spiritualité ou dans la matérialité. C'est dans tous les domaines de la vie. Tzrichim liot al derech kiyum mitzvat Hashem. Ça doit être dans le chemin, dans la manière de l'accomplissement d'une mitzvat Hashem. Velo lishtadel le male et sheifat levavo le asagat advarina em. Ça ne doit pas être fait juste pour faire l'effort pour pouvoir accéder au désir que l'on veut accomplir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que n'importe quoi que tu fais, que ce soit une mitzvah ou pas une mitzvah, ouais, que ce soit faire à manger ou mettre les téfilines, que ce soit étudier la Torah ou expliquer le chemin dans la rue, tu dois toujours le donner une dimension de mitzvah. Les règles que tu appliques pour faire une mitzvah, tu les appliques dans ton quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la mitzvah? Elle donne un caractère élevé à la chose. Elle donne que tu enlèves les bêtises et que tu mets que l'important. Elle fait que tu rends la chose essentielle et tu lui enlèves les problèmes superficiels. Maintenant, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est de donner une dimension essentielle au quotidien. Il dit le Rav Dessler, « Men ben gashmiut ben meruchaniut ». Pourquoi est-ce que la Torah elle est venue? Elle a dit « Voilà les halachot pour travailler, voilà les halachot pour manger, voilà les halachot pour parler, voilà les halachot pour concevoir un enfant. » Tu dis « Ouais, j'ai besoin de toi !» Si tu veux faire un tzaddik, si tu veux faire un cheval, tu n'as pas besoin de moi. Mais si tu veux faire un tzaddik, il y a des règles. D'accord? Alors pourquoi la Torah elle se mêle de tout? Mais c'est marqué ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la personne, elle va élever son projet en lui donnant un sens, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met Hachem dans son projet. Comme elle met Hachem dans son projet, vous voyez, alors Hachem, il est dans le projet. C'est ça, Boter Hachem. Maintenant, dans cette logique-là, il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas de place. Pourquoi? Parce que toi, tu fais ce que tu as à faire. Regarde Amavdil, ouais. Le soldat japonais de l'époque, ouais, qui a donné toute sa vie pour sa patrie, et qu'on lui dit, prends ton avion et va t'écraser sur un porte-avions américain. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est une idée individuelle. La peur, c'est une forme d'égoïsme. Donc le mec, il s'est annulé pour la passion, pour la gloire de l'empereur. Il va mourir avec joie. problème, c'est qu'il est mort pour rien. Ça fait vraiment de la peur l'arbour. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'il est mort pour rien. Maintenant, la Torah, elle te dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un caractère de mitzvah. Si tu le fais pour l'empereur, qui c'est l'empereur? C'est un monsieur comme tout le monde. Il va aux toilettes aussi. Ouais. Si tu le fais pour la patrie, c'est un concept. Elle est dirigée par des gens qui ont des intérêts. L'intérêt, maintenant, c'est de faire la guerre, ça rapporte. Après, l'intérêt, c'est de faire la paix, parce qu'après, il faut reconstruire. Et toi, tu dis, moi, je suis mort pour quoi alors? Mais quand tu le fais pour Hachem, les intérêts d'Hachem, ce n'est pas des intérêts humains. Elle marche vos tailles, marche vos techem. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité, elle doit être humaine, mais le projet, il doit être divin. Maintenant, quand toi, tu t'inscris dans un projet divin, tu gagnes le fait que tu as enlevé la distance entre toi et la réalité, donc il n'y a plus de peur. Oui? Et dans ton fond, tu es rassuré, puisque tu sais que ça a un sens ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un va dire, c'est pas évident? Moi, je ne sais pas. Nous, ça fait 3500 ans qu'on existe. D'accord? Les civilisations, elles passent les unes après les autres et créent des systèmes, et créent des doctrines, et créent des ambiances, et créent des dictatures, des traluidures, des filatures, des baladures. Et nous, on est là. Et on est là. On est encore là. Maintenant, quel point commun il existe entre tous les juifs de la Terre? C'est pas les boulettes. C'est pas la cuisine. C'est pas la façon de s'habiller. C'est pas la façon de vivre. C'est la Torah. Maintenant, quel lien commun il existe entre tous les juifs des générations? C'est la Torah. Dans les minagim, l'ambiance, les piyotim. Non. Chacun est différent. Tu vois que tu vois un juif chinois, tu te reconnais, toi? Il fait le kaddish, je ne sais même pas ce qu'il dit. Il insulte ma mère ou non? Non, il a fait le kaddish. Excuse-moi. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la seule chose qui nous relie, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, Rabotai, n'est pas humaine. C'est le seul intérêt. Maintenant, c'est quoi la tentation de l'homme? C'est de rendre la Torah humaine. Oui, il veut que l'intelligence de la Torah, ça soit l'intelligence humaine. Il veut que les mitzvot, elles ont un sens humain. Il veut mettre du sanitaire dans les mitzvot. Il veut mettre de la santé. Il veut mettre du porte-bonheur. Il veut mettre... Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rabaisser la Torah qui est divine à un niveau humain. Mais c'est dommage. Parce que la peur, elle n'existe pas chez le divin. Mais la peur, elle existe chez l'humain. Donc, il vaut mieux t'associer au divin qu'à l'humain. Maintenant, qu'à chaque fois qu'un homme se retourne avec lui-même, il se sent seul. Alors que celui qui est avec Hachem, il n'est jamais seul. Et la peur, c'est de se sentir seul. Donc celui qui n'a pas confiance en Dieu, il a toujours peur. Il a peur de prendre l'avion, il a peur de tomber malade, il a peur qu'il y ait un attentat, il a peur d'attraper un virus. Mais Rabotai, c'est un rapport de maturité. Regardez, oubliez la religion. On éduque nos enfants, pourquoi? Pour qu'ils soient des gens bien. Maintenant, ils vont être des gens bien quand? Quand on est devant eux, quand on n'est pas devant eux? Quand on n'est pas devant eux. Maintenant, si ils sont bien quand on n'est pas devant eux, ça s'appelle qu'ils sont autonomes. Si ils sont bien quand ils sont devant nous, ça s'appelle qu'ils sont hypocrites. Donc qu'est-ce qu'on veut nous? On veut des enfants qui soient bien quand on n'est pas là ou des enfants qui sont bien quand on est là? On veut des enfants qui soient bien quand on n'est pas là. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les rendre matures, il faut les rendre intelligents, il faut les rendre fins, il faut les rendre sincères, il faut les rendre sadiques pour que l'enfant, là où il est, il va être bien. Maintenant, imagine-toi que l'enfant, même quand tu n'es pas là, il pense à toi. Pourquoi? Parce que le père, c'est les repères. La mère, c'est la conscience. Ouais. Le père, c'est la structure mentale. La mère, c'est la sensibilité. Donc, un homme, toute sa vie, il porte son père et sa mère. Maintenant, pendant le temps où tu subis, entre guillemets, tes parents physiques, ça te permet de fabriquer les parents psychologiques. Quand toi, tu as créé les parents psychologiques, en général, tu te sépares des parents physiques. C'est pas grave, puisque tu les contiens. Maintenant, quelle différence que tu contiens tes parents psychologiques grâce à Freud et Françoise Zolto, ou que tu contiens tes parents psychologiques parce que tu as compris quelle est la place de Midat Hadin et Midat Harachamim. Qu'est-ce que c'est la justice? Comment les choses s'inscrivent dans une logique? Que Bederech Shirot, c'est l'Elech Molichin Oto? C'est toi qui as compris. Donc ça veut dire que quelqu'un, il est en sécurité. Mais celui qui refuse, ouais, comme celui qui exige, comme celui qui refuse, il se retrouve dans une solitude et c'est dans cette solitude qu'elle vient la peur. C'est pour ça que les gens ils paniquent. Moi, je vois les gens dans l'avion. Je les entends parler. Ah, il paraît qu'à l'arrière, tu as plus de chances de t'en sortir. Quand l'avion il va s'écraser, bah. Il dit mettez la ceinture. Mais la ceinture, qu'est-ce que tu vas faire? Il a explosé l'avion. Quelle ceinture? Allez, mets la ceinture. Fais-lui plaisir. D'accord? Oui, mais c'est quoi l'idée? Moi, je vous dis la vérité. Ne prenez pas mal. Vous savez que 90% des gens meurent le jour de leur mort. Hein? Il y en a qui devancent l'appel. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois. Comment est-ce qu'on appelle la mort avant la mort? Vous vous rappelez ou non? Non, la mort avant la mort, comment on l'appelle? J'ai pas dit, d'accord. Comment on appelle la mort avant la mort? Il y a la mort. D'abord, est-ce que quelqu'un il peut mourir et après il peut mourir à nouveau? Quelqu'un il est mort, après encore il est mort. Comment il appelle la mort avant la mort?
La peur.
Ça dépend si c'est écrit quelque part la date de chacun.
Ouais, non, c'est fixer le jour de la naissance. Parce que sinon on va empiéter sur la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est quoi? En bataille, c'est facile. La mort avant la mort s'appelle le remords. Tu mords et tu remords. Maintenant, quand quelqu'un faute, ouais, il perd le contrôle de lui-même. Donc, les Rechaim Bechaim, ils craignent Métim. C'est quand tu maîtrises plus, t'es mort. Donc, maintenant, il est mort. Après, quand il reprend conscience qu'il a fauté, il a le remords. Donc, il meurt une deuxième fois. Le remords, il crée la culpabilité. La culpabilité au niveau chimique, elle crée la maladie. Et la maladie, elle le tue. Parce qu'un Adam met et un Ken Choté. Donc, le mec, il est mort, il est remords, il est re-remords. Il passe sa vie à mourir. Alors, moi, je conseille de vivre le maximum jusqu'au jour de la mort. Pourquoi mourir avant? Regardez par exemple, tu sais que tu as rendez-vous à 15h. Ouais. Et ben tu dis à 15h, je vais m'angoisser pour le rendez-vous. Tu dis mais quand je vais faire jusqu'à 15h? Mais à 15h, avant 15h. Mais je sais que j'ai rendez-vous, je sais que je suis capable de faire le rendez-vous, je sais que j'ai préparé mon rendez-vous, je sais que je connais mon produit, je sais que je ne suis pas plus nul que la moyenne, je sais que le type il a besoin de moi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. Donc je vais arriver à la seconde même où je rentre devant. Je dis mais maintenant je vais m'angoisser. Je dis je peux plus parce que je suis dans le rendez-vous maintenant. Avant je suis pas dans le rendez-vous. Maintenant je suis dans le rendez-vous. Alors où elle est la peur? Il n'y en a pas. Par exemple, parler en public. Vous avez déjà essayé de parler en public? Vous savez, les gens, ils font des stages de formation dans des centres pour parler en public. Moi, j'ai jamais eu d'école pour parler en public. C'est dur de parler en public, c'est très dur. Et en plus, que quand tu sais même pas de quoi tu vas parler, c'est encore plus dur. Mais c'est quoi l'idée? Alors, qu'est-ce que j'avais à l'époque, j'avais cours tous les mardis soirs. Donc, qu'est-ce que je faisais? Le mercredi, je choisissais le thème et jusqu'au mardi, j'y pensais pas. Après le mardi après-midi, je relisais la feuille une fois et après j'y pensais plus. Je faisais les devoirs avec les enfants. Après je prenais la voiture. Dans la voiture, je rigolais avec le type qui m'accompagnait. Et avant de rentrer dans la salle, je relis encore une autre fois le cours. Et maintenant, il commence à monter l'angoisse qu'il y a 300 personnes qui t'attendent. Ouais. Et j'ai dit, j'y pense pas. Et je rentre dans la salle. Et maintenant, dès que tu commences le cours, tu n'as plus l'angoisse. Ça veut dire que tu restreins l'espace de ta peur.
Ou peut-être que certaines personnes ont un don de parler en public.
Non. Moi, je vais te donner un exemple. Mais le type, regardez, est-ce que quelqu'un, il a un don d'aller chez le dentiste? Personne. Alors pourquoi il y en a déjà la veille du rendez-vous? Ils ont l'angoisse. Dans l'escalier, ils ont mal aux dents à cause de l'odeur. Je vais mourir. Ils ouvrent la porte, ils entendent crier. Ils croient qu'on lui a arraché un bras. Mais il n'y a rien. Il s'assoit sur le siège, il a des sueurs qui lui coulent. Il a perdu 12 kilos. Tu dis, mais monsieur, je ne vous ai pas encore touché. Il y a des gens, il faudrait que tu les anesthésies 2 ans avant le rendez-vous. On ne peut pas vivre avec l'anesthésie rabotaille. Ouais. On ne peut pas. Mais là, des gens, ils s'anesthésient. L'autre jour, j'ai eu un couple, il est venu. Le type, je le voyais, il parlait comme ça. Rav. Je dis, écoute, je dis, avec ce que tu prends comme médicament, je ne peux pas parler avec toi. Il me dit, oui, mais elle m'énerve. C'est pour ça que je crie. Je dis, écoute, là, tu m'entends là. Il me dit, ouais, mais tu comprends encore. Tu vois que tu changes de sujet. Tu vois, tu as vu le taux de déformation des médicaments? Je ne peux même pas te parler. Je dis, maintenant, les médicaments, ils te servent à te soigner ou ils te servent à éviter d'avoir à te soigner? Si tu prends les béquilles et que tu développes la volonté, tu vas remarcher sans béquilles. Mais si tu te sers des béquilles pour expliquer pourquoi tu n'arrives pas à marcher, tu n'as qu'à prendre une chaise ou des prothèses. Toute la vie, c'est comme ça. Ou tu te sers de la vie pour grandir, ou tu te sers de la vie pour t'appuyer dessus. Là, il y en a, ils ne veulent pas s'appuyer sur la leur, ils s'appuient sur l'autre. Par exemple, le coléreux. Il ne peut être coléreux que sur le dos de quelqu'un qui supporte sa colère. Tu n'as jamais vu un coléreux qui s'énerve tout seul sur une île déserte, ça n'existe pas. Donc le coléreux, il a besoin du patient. Comprenez ou non? C'est comme ça. Tout le monde. Ça s'appelle les logiques de compensation. Un jour, tu vas comprendre que c'est toi qui dois faire les deux contrepoids. Si tu fais les deux, ouais, entre ta volonté et ta réalité, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de peur. Oui? Entre ta croyance et ta réalité, il n'y a pas de peur. Maintenant, si tu as une croyance intellectuelle et que tu as un vécu réel, donc les deux ne sont pas compatibles, donc il y a de l'espace pour la peur. Si tu as lu tous les livres sur l'éducation, mais que tu ne t'investis pas dans l'éducation de tes enfants, donc il y a un espace. Donc, il y aura de l'espace, donc comme il y aura de l'espace, il y aura de la peur. Comme il y aura de la peur, il y aura des conséquences. Comme il y aura des conséquences, il y aura des déceptions. Et après, tu dis, j'avais raison d'avoir peur. Mais c'est toi qui as créé l'espace. Donc, ça veut dire Rabotai. La ishtadlout, et comme ça, il dit le Rav Dessler, la ishtadlout que quelqu'un y fait dans sa réalité, c'est ça le bitachon. L'effort que tu fournis pour y arriver, ouais. Pourquoi tu fais un effort? Parce que tu y crois. Et bien déjà, l'effort que tu fournis, il génère de la croyance, il génère de la confiance. Donc celui qui ne fait pas d'effort, il augmente son insécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un argumentaire pour expliquer pourquoi il ne s'investit pas. Mais c'est justement le fait qu'il ne s'investit pas qui lui donne l'occasion de créer un argumentaire. Ça ne se terminera jamais. Donc ça veut dire que l'immobilisme est la mère de tous les maux. Batala mevil et deshigaon. De ne rien faire, ça amène à la folie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller. Tu dis, mais comment je vais faire? J'ai pas confiance. Mais la confiance, elle va venir puisque tu vas le faire. Tu sais, t'es fatigué. Tu dis, comment je vais faire un Shabbat? Je suis fatigué. C'est vrai. Alors ma grand-mère, elle disait, t'es fatigué. Commence à couper les oignons. Tu coupes les oignons. Après, tu dis, sors-moi la viande, sors-moi les carottes, sors-moi la farine, t'as fait le Shabbat. Mais si tu regardes les oignons, tu dis, c'est pas mes oignons. Et pourquoi c'est à moi de le faire? Et chaque vendredi c'est la même chose. Et ils vont tout bouffer. Après ils vont tous aller aux toilettes. À quoi ça sert? Mais rien ne sert à rien. Regarde l'argent qu'on gagne. À quelle vitesse elle le dépense? D'autant que je ne le gagne pas, comme ça personne ne le dépense. C'est fait pour ça. L'argent il est fait pour être dépensé. Les années elles sont faites pour passer. La bouffe c'est fait pour être digéré. Les maisons c'est fait pour être usé. Les enfants pour grandir. Les meubles pour se casser. Les maisons pour se détruire. C'est comme ça. C'est la vie. Et les gens disent, non, ils veulent que rien ne bouge. Le musée. Même leur corps, ils ne veulent pas qu'il bouge. Ils veulent absolument mourir en bonne santé. Mais quel intérêt? C'est comme si ton fils, il te ramène tous les cahiers. Après 18 ans de scolarité, il dit, voilà papa, ils sont tout neufs. Je ne les ai jamais utilisés. Tu peux les revendre. Tu me dis, Abrel Yahmar, je voulais que tu uses les cahiers, que tu uses les stylos, que tu uses les livres, que tu uses les professeurs et que tu deviens quelqu'un de bien. Tu dis, non, je suis resté nul, mais j'ai rien gaspillé. Mais tu as gaspillé ta vie, tu n'as pas un plus grand gaspillage que ça. Alors ici, c'est pareil. Maintenant, quelqu'un, hein, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, bah, c'est pas shoot. On a dit quoi? Maintenant, il faut voir le concret. Maintenant, il y a une peur qui vient, il y a une angoisse qui vient. Ça, tout ça, c'est intellectuel. Mais comment je vais faire maintenant? Maintenant, en réel. Alors, je vous donne la première chose. Première chose, tu respires à fond. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué déjà plusieurs fois que la respiration, c'est le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Maintenant, quand quelqu'un respire en vérité, la respiration s'appelle la neshima. La neshima, hein, c'est l'expression physique de la neshama. Tu remarques que quand quelqu'un il a le souffle court, la panique, elle augmente. Quand quelqu'un il calme son souffle, alors automatiquement, la détente, elle vient. Donc, qu'est-ce que tu fais? Numéro un, tu respires à fond. Ça veut dire quoi? Tu dis, je ne veux pas rentrer dans ma peur. Je ne veux pas la laisser. Il y a un événement, il est là. Maintenant, combien il va pénétrer, combien il va me bouleverser, ça dépend de moi. Donc, numéro un, qu'est-ce que je fais? Je respire à fond. Deuxièmement, je dis avec ma bouche, je dis, moi, je vais faire ce que je peux, et le reste, c'est entre les mains d'Hachem. Parce que de toute façon, on ne demandera pas plus, et de toute façon, tu ne pourras pas faire plus. Donc, toi, tu dois dire, moi, je vais faire ce que je peux. Ce que je peux faire, je vais le faire, mais je vais le faire bien. Le reste, ce n'est pas entre mes mains. Donc, comme je n'ai pas le souci de tout faire, ouais, donc je n'ai pas non plus la frustration de ne pas avoir tout fait. Puisque le tout, pour moi, c'est ce que je peux faire. Je le fais. Après, je ne peux jamais dire que je suis seul, puisque Hachem est avec moi. Donc, le Satan, qu'est-ce qu'il crée? Il crée un sentiment de solitude. Ouais. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent pour faire des avérotes. Mais c'est idiot. Parce que quand tu te caches pour faire des avérotes, qu'est-ce qui passe? Eh bien, comme tu te sens seul, tu fais l'avéra. Mais après, pourquoi tu t'angoisses? Parce que tu es seul. Maintenant, la présence d'Hachem, c'est la sécurité. Et l'absence d'Hachem, c'est l'angoisse. La distance que tu crées entre toi et Dieu s'appelle la dépression. Et la proximité avec Dieu s'appelle le lien avec ta conscience et s'appelle la joie. C'est pour ça qu'il y a un élève de Freud, il a dit qu'en 40 ans de consultation, il a remarqué statistiquement que même les gens qui allaient très très loin dans la névrose, quand ils avaient une base de croyance, même simple, ils ne basculaient pas dans la folie. Pourquoi? Parce qu'au bout de l'esprit, il y a Dieu. Et en bas de l'esprit, il y a le corps. Maintenant, le corps, c'est un animal. La neshama, elle est divine. Donc toi, tu as des repères. Il y a des choses que tu ne feras jamais parce que tu n'es pas un chien. Il y a des choses que tu ne feras jamais parce que tu n'es pas le bon Dieu. Donc ça fait une limite supérieure, une limite inférieure. Mais si tu prends un ballon, vous savez les ballons qui sont gonflés à l'hélium, et tu le lâches dans la rue, c'est des ballons de Disneyland et tout ça, tu le lâches. Ton fils il dit, papa le ballon, ballon. Tu dis, mon fils c'est fini, qui c'est qui va le rattraper? Il y a des gens, leur tête quand elle part, elle monte, elle va exploser. Donc tu as une limite supérieure, je ne suis pas le bon Dieu. Tu as une limite inférieure, je ne suis pas un chien. C'est ça qui te tient. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent de l'alcool, ils prennent des cachets, ou ils délirent parce qu'ils veulent se conduire comme des chiens dans des orgies, dans des milieux pourris, dans des trucs. Donc maintenant qu'ils sont, ils se sont retrouvés qu'ils sont des chiens, hein, ils se reconnaissent pas, donc ils veulent se suicider. L'autre, maintenant, il est monté, il est monté, il est monté, il s'est pris pour Dieu. Il n'est pas Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord? Donc automatiquement, maintenant, il pète un câble, il devient fou, tu le retrouves dans l'asile de fou, il se met à faire des trucs, il bénit tout le monde, tu dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive toi? Et le pire, c'est qu'il dit j'ai des signes, c'est normal, puisqu'il est obligé de nourrir sa folie. Comme le menteur, il nourrit sa névrose, comme le complexé et le paranoïaque, il voit la haine des gens. Donc le fou, il nourrit. Donc ça veut dire quoi? Tu fais le contraire. Que la vraie solitude, c'est la distance avec Dieu. Ouais. Et la vraie sérénité, c'est la proximité avec Dieu. Donc plus tu augmentes ta proximité avec des exercices de bitachon, comme la prière, comme la croyance, comme de dire Baruch HaShem, mais de le ressentir vraiment, comme de dire merci. Avant de te plaindre de la vie, tu fais la liste de tout ce qui est bien dans ta vie. Après, tu dis, je vais me plaindre. Tu verras que tu n'arrives pas à finir la liste. Mais les gens qui se plaignent ou qui exigent, oui, parce que leur liste de bonté d'HaShem, de bonté de la vie, elle est petite. Alors, ils retombent toujours sur leur aigreur. Troisièmement, d'avoir en tête que là où je suis en sécurité. Je sais que ça a l'air simple. Le jour, j'ai fait un travail avec une personne pendant une heure et demie. Alors, elle, dans une voiture, dans l'ascenseur, dans un bateau, dans le métro, dans claustrophobe. Alors sachez qu'au début c'est une peur. Après la peur elle devient chronique. Après elle fait un dérèglement chimique, des fois hormonal, après elle s'installe. Maintenant, après il faut refaire tout le chemin à l'envers. Ça va ? C'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre. La peur, c'est des pensées. Oui ? Eh bien les pensées, on peut les abandonner tant qu'elles sont des pensées. Mais quand les pensées elles deviennent des convictions et que les convictions deviennent des réflexes et qu'après les réflexes ils deviennent des tics nerveux, ça devient plus compliqué. Donc tant que la chose elle est dans la tête, vas-y, évacue-la. Débarrasse-toi. T'as un truc ici. Vomis. Tu dis, je peux pas vomir. Mais ça va pourrir à l'intérieur. Vous savez, il n'y a pas mieux qu'une petite tranche de saumon bien tournée pour t'envoyer à l'hôpital. Hein. Mais c'est rien du tout, je t'en prie un petit saumon, c'est pas une balle de fusil, c'est pas un obus, c'est une petite tranche de saumon bien pourrie, mais bien pourrie. Hein. Tu vas aller à l'hôpital. Intoxication alimentaire. Maintenant, tu avales un truc de travers, une angoisse, un client qui te paye pas, un stress, une déception de ton fils, tu l'avales de travers. Maintenant, ou tu vomis, ou tu élimines. Mais si tu gardes à l'intérieur, empoisonnement. Et c'est rien, c'est juste quelque chose qui a mal tourné. Troisièmement, tous mes choix sont bons. Quatrièmement, tous mes choix sont bons puisque je les assume. J'assume. D'accord? Tout ce qu'on n'assume pas, bon ou mauvais, ça va mal se terminer. C'est bon, mais t'assumes pas, ça tourne mal. C'est mauvais, t'assumes pas, ça tourne mal. C'est bon et tu assumes, tu grandis. C'est mauvais et tu assumes, tu développes une expérience. Donc c'est toujours bon. Mon âge est parfait. C'est des phrases clés hein, qu'il faut avoir en tête. Mon âge est parfait et je vis chaque instant avec plaisir. C'est pas je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'aurais dû profiter, je me suis réveillé trop tard, j'ai perdu combien d'années, à quoi ça sert, qu'est-ce qui me reste à vivre, c'est des bêtises. Chaque instant que tu vis, il est adapté à toi. D'accord? Tu as l'âge qu'il faut, à l'âge qu'il faut. Ouais. Et chaque instant, tu en profites à 100%. Parce que si tu gaspilles ton présent à cause de son passé, ça s'appelle Yahasra. Si tu gaspilles ton présent à cause de ton futur, ça s'appelle Khuf. La peur. Oui. Mais le pire, c'est que tu as gaspillé ton présent. Ensuite, personne ne peut me faire de mal si je ne lui donne pas la possibilité de le faire. Ça, c'est ce que je vous ai répété un million de fois. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si j'ouvre la porte, je me fais fracasser. Pendant la première fois, je n'ai pas fait attention, il m'a mal parlé. La deuxième fois, je dis, tu ne me parles pas comme ça. Si je dis non, je ne dis rien, c'est pour le shalom. Aujourd'hui, il te parle mal. Demain, il te faut autre chose. Après, tu dis, mais c'était pour le shalom. Eh ben voilà, voilà, tu as trouvé le ha, c'est des cousins, hasve shalom. Alors, et enfin, dernièrement, ma maison, c'est où ma maison? C'est quoi ma maison? C'est l'univers. C'est-à-dire que le sentiment d'insécurité, genre je suis dans la rue, je suis pas bien, j'ai pas de domicile fixe, j'ai pas de. Non, ma maison, je suis bien partout. Parce que là où je suis, Hachem, il est avec moi. Ouais, quand on avait le 4 étoiles, on avait le 4 étoiles. Maintenant, on a le 2 pièces, on a le 2 pièces. J'ai des gens, ils vivaient dans un 2 pièces, un bonheur absolu, à 8. Maintenant, ils sont grâce à Dieu dans une maison énorme. Ils te disent, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Alors, ils regrettent le 2 pièces. Comprenez cette logique ou non? Pourquoi? Parce que là où tu te sens bien, tu es toujours bien. Là où tu te sens mal, tu es toujours mal. Ça n'a rien à voir, ni avec le luxe, ni avec le truc, ni avec l'ahbaba, c'est rien. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, moi, je suis bien partout dans l'univers. Parce que partout dans l'univers, je suis avec la source de la confiance. Et la source de la confiance, c'est Hachem. Donc quand quelqu'un, il est boté à Hachem, c'est pas comme ça quelqu'un maintenant, il est aveugle, il est bête et il espère. Non, il est batouah, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le psychique, et le psychique, il peut se tourner ou vers la Neshama, ou vers le gouf. Maintenant, le gouf, il est changeant, ouais. Alors il vaut mieux qu'il se tourne vers la Neshama. La Neshama, c'est une perpétuité. C'est une profondeur, c'est une vérité. La Neshama, elle ne connaît pas la peur. Parce que la peur, c'est l'inconnu. Et pour la Neshama, il n'y a pas d'inconnu. Alors, comment il peut avoir le sentiment de l'assurance alors qu'il n'a pas de connaissance de l'inconnu? Ça s'appelle le bitachon. Donc, le bitachon, c'est l'assurance de la croyance malgré que la réalité, elle n'apparaît pas. Le bitachon, c'est l'assurance de la croyance malgré que la réalité, je ne l'ai pas. Et si quelqu'un va dire, oui, mais ça c'est déjà un niveau, ça ne veut rien dire. Parce que quand tu te maries, tu crois à l'avenir. Quand tu te lèves le matin, tu crois que tu ne vas pas mourir dans l'après-midi, non? Quand tu fais des études, quand tu es en 4e année, tu espères bien finir les 7e année. Quand tu ouvres le magasin, tu espères que le client il va venir. Donc on est tous des croyants. On est tous croyants. Maintenant, il y a des malins, ils arrêtent la croyance à leur projet. Et il y a des gens, ils prolongent la croyance jusqu'à Dieu. Maintenant, quand tu prolonges la croyance jusqu'à Dieu, ton projet il est plus grand que toi. Donc ton projet il te véhicule. Mais quand tu arrêtes la croyance à toi, alors si tu perds, tu es déstabilisé, tu n'as plus confiance en toi, alors tu commences à paniquer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les projets ils doivent être réels, mais les repères ils doivent être divins. Quand ton repère il est divin, tu n'es plus lié à la conjoncture, tu n'es plus lié à la ponctualité. Tu es lié à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors là, les choses elles vont se faire. Comme quand quelqu'un il se sent bien parce qu'il a son père à côté de lui, alors toi tu as ton père à côté de toi. Donc celui qui croit en rien, il est avec personne. Et c'est ça l'origine de la peur. Voilà. Chazak Ubarour, excusez, j'ai fait 20 minutes de trop. Attendez-vous, ça va aller. Donc la prochaine date, si Dieu veut, ça sera le 9 mai. Donc passez un bon Pessah Kasher et Sameach. Deuxièmement, je vous ai... Attendez. Madame Saada m'a demandé, je vous ai fabriqué les cours qu'on avait fait ici. On les a mis en CD. Pour les gens qui veulent leur écouter. Le cours sur la colère et le cours sur le l'homme n'est que parole, ils sont là à vos dispositions, c'est pour que vous puissiez retravailler dessus. Là aussi, je veux aussi le donner à Moshe Lévy, pour les gens qui veulent réécouter, mais sachez... Il y a un c'est bon, on va le faire transmettre, je sais pas où, par email ou je sais pas quoi, mais sachez que le principal, c'est le travail que vous allez faire. Là, vous avez écouté, c'est super, je suis content, personne n'a dormi, c'est un miracle, mais sachez que ça n'a rien à voir si vous retravaillez sur le cours, ou si ça vous l'écoutez une fois. Si vous retravaillez sur le cours, vous pouvez soigner votre psy, même votre rabbin, si vous travaillez...